7h, 9h.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 7 juin. Le maquillage bleu, blanc, rouge est prêt. Les piles sont dans la télécommande. On se remet en mode supporter et on dit tous allez les bleus. La Coupe du Monde de foot féminin démarre ce soir. France-Corée du Sud, c'est le match d'ouverture, soirée spéciale dès 20h sur Europe 1. À 7h45, je reçois Noël Le Graët, en exclusivité, le président de la Fédération Française de Foot. Qu'attend-il des filles un an après le sacre des garçons? Et vous, tiens, le foot féminin, est-ce que vous vous y êtes mis? Serez-vous supporter de cette équipe de France?
Moi, oui.
Pendant un mois, j'ai envie de vous entendre sur le sujet. Prenez la parole au 39-21. N'hésitez surtout pas, ou sur le hashtag Europe 1. Cet engouement, on en parle aussi avec Jean-Michel Apathy à 7h40. On revient aussi au thème qui fâche l'État, qui va durcir les conditions d'accès aux allocations chômage. Ce sont les informations de Nicolas Barré. Tous les détails dans un quart d'heure. 7h20, révolution en cours dans les centres commerciaux. Dossier complet, Europe 1 va plus loin. Et puis un autre mot de sport aujourd'hui, mais c'est du tennis. Le choc, la demi-finale que vous attendiez. Nadal Federer, Corinne Boulou pour le journal de Roland-Garros. C'est à 8h35 et là aussi, il faut choisir votre camp. Tiens, vous êtes plutôt Nadal ou Federer,
Céline ?
Moi,
plus Federer.
Plus Federer, ouais. Je sais que là, on va fâcher des gens. Plus Nadal, plus Federer, vous nous le dites sur le hashtag Europe 1 et au 39-21. Voilà quelques éléments du programme de votre matinale sur Europe 1. 2 heures d'info, on est ensemble jusqu'à 9h. Allez, courage, c'est le dernier jour de la semaine. Excellent réveil à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce vendredi matin. Très bon réveil, il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Mathieu Béliard.
Le journal avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Le grand jour pour les Bleus, coup d'envoi de leur mondial à domicile ce soir avec l'espoir de faire aussi bien que les garçons. Match d'ouverture à suivre donc en direct sur Europe 1. L'assouplissement des 80 km/h sur les routes secondaires, c'est voté. Les départements et les maires auront le dernier mot. Et puis pour cause de tempête, l'Hermione a rejoint la flotte de l'Armada de Rouen dès hier soir. Rassemblement des plus grands voiliers du monde. Nous avons assisté à son arrivée dans le port.
Et à 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera Hervé Morin, président de l'Association des régions de France.
Europe 1. C'est dans un parc des Princes plein à craquer devant 47 000 spectateurs que l'équipe de France féminine de foot entame donc ce soir son parcours dans le mondial. Ce sera 21h face à la Corée du Sud. Les Bleus s'apprêtent à vivre le jour le plus long, prendre son mal en patience jusqu'au coup d'envoi. Et d'ici là, elles ont un programme assez cadré, Simon Rubin.
Oui, alors à l'heure qu'il est, hein, les Bleus, elles dorment encore. Elles vont se retrouver à 10h pour un réveil musculaire, un peu de course, histoire de tout doucement débuter la journée, de mettre le corps en action. Le reste de la journée sera très balisé. Fin de matinée libre, avant le déjeuner en compagnie du président de la Fédération, Noël Le Graët. Ensuite, petite séance vidéo pour analyser encore un peu le jeu des Coréennes, des adversaires. Une petite sieste. Et puis ensuite, en milieu d'après-midi, place au briefing de Corinne Diacre. Premier moment clé, hein, pour motiver le groupe. Là, c'est vraiment pour mettre les esprit en tension, fixer les objectifs, la manière de jouer. Enfin, autre temps fort qui va vraiment faire sentir au bleu que la compétition démarre, c'est le trajet en bus vers 19h. Une demi-heure entre Croissy dans les Yvelines où les Bleus séjournent et le Parc des Princes. Dans ce bus, aux couleurs de l'équipe de France, avec le public pour saluer cette équipe sur tout le parcours, c'est là que les Françaises vont enfin entrer dans leur bulle. Ultime moment de concentration avant l'arrivée au stade et le grand saut.
Simon Rubin et Emmanuel Macron sera dans les tribunes.
Grande soirée foot en public ce soir sur Europe 1 dans le merveilleux studio Pierre Belmar. Cette soirée commence dès 20h sous la houlette de Lionel Rousseau.
C'était l'un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes. L'Assemblée a voté hier soir l'assouplissement des 80 km/h. La responsabilité sera laissée au président des conseils départementaux et au maire Marguerite Lefebvre.
Oui, les députés ont donné leur accord peu avant minuit par un vote à main levée. À l'avenir, les maires et les présidents de conseils départementaux pourront décider au cas par cas de relever la vitesse sur certaines routes secondaires, de revenir à 90 km/h. Ça veut donc dire concrètement que sur certaines routes, la vitesse pourra ne pas être la même sur tous les tronçons suivant le département dans lequel on se trouve. Avec cet assouplissement, le gouvernement espère calmer la colère des élus et des automobilistes vent debout depuis l'entrée de la en vigueur des 80 km/h l'été dernier. La majorité mise toutefois sur le fait que ces élus n'osent pas franchir le pas, n'osent pas prendre la responsabilité de rehausser cette vitesse. Les préfets, eux, n'auront pas le choix. Les routes nationales qui sont sous leur autorité resteront à 80 km/h quoi qu'il arrive.
Marguerite Lefebvre. Et à Paris, Anne Hidalgo annonce que les trottinettes électriques n'auront plus le droit de stationner sur les trottoirs, mesure qui entrera en vigueur début juillet. Elle propose aussi que les trottinettes soient bridées à 20 km/h dans toute la capitale.
Europe 1, il est 7h03.
Déjà 5 semaines d'audience pour le procès des suicides chez France Télécom.
Les anciens dirigeants jugés pour harcèlement moral n'ont pas bougé d'un millimètre leur ligne de défense. Ils contestent fermement la mise en place d'un système de
harcèlement. Système que pourtant plusieurs parties civiles ont longuement détaillé ces dernières semaines, Chloé Triomphe.
Face aux témoignages poignants des victimes et des proches, l'ancien PDG Didier Lombard et son équipe s'étaient contentés d'éluder et d'expliquer qu'ils n'avaient pas connaissance dans le détail de situations humaines locales. Pour la Défense, explique Maître Patrick Maisonneuve, il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités.
C'est quelque chose qui est très compliqué parce que vous ne pouvez avoir que de la compassion vis-à-vis des familles qui ont perdu un proche. Et donc il est très difficile à ce moment-là de pouvoir répondre, donner des explications lorsque vous avez la douleur sous les yeux.
Une attitude qui continue pourtant à heurter les parties civiles que défend Maître Sylvie Topaloff.
Mais ils sont dans le déni complet. Ils ont voulu faire 22 000 départs qui étaient des départs naturels, sans passer par un plan social. Ils ont joué les apprentis sorciers et aucun à ce jour n'est venu dire « on s'est trompé ».
Mais la Défense rappelle que la compassion ne fait pas un procès pénal. Dans les semaines à venir, il s'agira donc avant tout de savoir si la politique mise en place par l'équipe dirigeante relevait ou non du harcèlement moral.
Chloé Triomphe, et puis déception de plusieurs représentants des urgentistes après les annonces d'Agnès Buzyn hier, journée de mobilisation nationale après 3 mois de grève. La ministre de la Santé a promis une stratégie d'ensemble pour refonder les urgences, mais elle n'a pas donné de budget supplémentaire.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal d'Hélène Zélani. Écoutez bien, quand un élu demande au patron de bar de ne plus servir d'alcool à ses agents, ça se passe en Bretagne. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info avec Mathieu Béliard.
La suite du journal d'Hélène Zélani, c'est un courrier qui fait grincer des dents dans une vingtaine de communes d'Ille-et-Vilaine.
Oui, comme le révèle le journal local Le Pays Malouin, un élu a récemment envoyé une lettre pour le moins inhabituelle à tous les patrons de bars du secteur de Dol de Bretagne et de la baie du Mont-Saint-Michel. Il leur demande de ne plus servir d'alcool à ses agents pendant leurs heures de travail. Reportage François Coulon.
Des dizaines de cafetiers ont failli s'étrangler à la lecture du courrier.
On n'est encore pas policier. Personne ne va m'interdire de les servir s'ils viennent chez moi.
Et on ne va pas demander à chaque personne s'ils sont en train de travailler pour pouvoir les servir. C'est totalement aberrant.
Ça les stigmatise. Ça veut dire que ces gens-là boivent tout le temps. Alors qu'en fait, ils ne sont pas plus avinés que beaucoup de mes clients.
Nous ne voulons pas que nos salariés soient sous l'emprise d'alcool ou de drogue pendant leur travail, explique l'élu. Claude, agent communal, reconnaît le souci.
Je connais des gars qui vont dans les bars pendant leur temps de boulot. C'est un peu dangereux. Et renverse quelqu'un, ben, il a tout pour lui.
La lettre envoyée à tous les bistrotiers de 19 communes est insultante, estime Philippe Bagberge, délégué sud.
On est pris pour des alcooliques et des drogués. C'est quand même une insulte et ça arrive 2-3 fois par jour. Il y a un ou deux éléments. On est très furieux parce que ça met à mal la cellule familiale.
On vous traite d'alcoolo là maintenant ?
On insinue. C'est injuste. Les gens sont ainsi révoltés et vont aller plus loin forcément.
Certains agents n'excluent pas de porter plainte pour dénigrement. Dol de Bretagne, François Coulon, Europe.
Direction Rouen à présent, où l'Armada vient de s'ouvrir sous une météo assez peu clémente.
Oui, 700 000 visiteurs sont attendus chaque jour jusqu'au 16 juin pour admirer les plus grands voiliers du monde sur les quais de Seine et surtout l'invité d'honneur, l'Hermione. Le légendaire voilier de Lafayette est arrivé hier soir avec 24 heures d'avance pour éviter la tempête Miguel. Jean-Gabriel Bourgeois assistait à l'événement.
Des coups de canon annoncent son arrivée. Parmi les centaines de spectateurs sur les quais, Delphine et sa fille Charlotte, 9 ans et demi, ne voulaient pas rater l'Hermione.
Très joli, ça ressemble à un bateau pirate.
On est allé à Rochefort une année et il était en construction. Donc on s'était dit, s'il vient à Rouen, on ira le voir, on le verra fini en fait.
Dernière manœuvre avant l'amarrage sous les applaudissements de la foule. Sur le pont, l'équipage porte l'uniforme de l'époque de Lafayette pour rappeler que le bateau a traversé l'Atlantique. Un symbole fort pour Florence et Thierry, couple de Rouennais.
C'est la marraine de l'Armada, c'est bien d'être là pour la voir arriver. On est un petit peu chauvin aussi, c'est un bâtiment français. Bah, c'est émouvant, c'est tout beau.
En plus aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le D-Day, c'est le 75e anniversaire. Oui. Français-américain, donc c'est la marraine de l'Amérique et de la France.
Et pour assurer le spectacle jusqu'au bout, l'équipage entonne des chants de marins avant de faire escale ici pour 10 jours. Rouen, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Ouais, c'était pas une très bonne nouvelle pour l'Armada. Pluie et vent violent, 8 départements de l'Ouest sont placés toute la journée en alerte orange à cause de la tempête Miguel. Les organisateurs de Roland-Garros seront eux aussi les yeux tournés vers le ciel en espérant que la pluie ne viendra pas perturber les demi-finales avec notamment un duel au sommet Federer-Nadal. Il est prévu vers 13h.
Hélène, vous êtes Nadal ou Federer, vous ?
Un peu plus Federer, j'avoue. Ah ben voilà, mais Federer. C'est la contagion.
Team
Federer.
Pour l'instant, c'est Team Federer, c'est ça. C'est Team Federer le matin. Vous allez nous dire, n'hésitez surtout pas à votre choix avant cette demi-finale tant attendue.
Oui, vous pouvez nous le dire sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et puis si vous voulez nous en parler à l'antenne, hein, appelez-nous au 3921. Notre standard, c'est 50 centimes la minute.
La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
Il est 7h10, c'est l'heure, comme chaque matin, Mathieu, de retrouver notre reporter Martin Fenot sur le terrain.
Bonjour Martin, vous êtes où ce matin ?
Bonjour Mathieu, je suis devant le stade de Reims parce que c'est en quelque sorte ici, sur ce terrain, que l'histoire du football féminin en France a commencé il y a un peu plus de 50 ans. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde féminine. Eh bien, à l'époque, le football féminin, ça n'avait aucune existence officielle, du moins jusqu'à l'arrivée des pionnières de Reims. C'était en 1968, l'organisateur d'une kermesse avait invité Ghislaine et d'autres jeunes filles à chausser les crampons. Mais écoutez bien, au début, c'était pour amuser l'assistance.
L'année d'avant, c'était un combat lilliputien. Et là, cette année-là, il a dit, bah, tiens, si on faisait jouer des filles au foot. Je jouais tous les jours avec mes frères sur un terrain de football à côté de chez moi. Donc, c'était la chance de pouvoir pratiquer dans une équipe de filles. C'était sans lendemain, normalement. On savait que c'était un sport essentiellement masculin. Mais bon, on s'est fait notre place.
Ça n'a pas dû être simple, Martin, de se faire une place, comme elle dit.
Ouais, non, il a fallu 2 ans hein, pour que la fédération les prenne au sérieux et reconnaisse le football féminin, alors qu'il y avait de plus en plus d'équipes en France. Mais le plus dur, ce que raconte Isabelle, la numéro 10 sur le terrain, c'était les remarques sexistes dans le public et les médias.
Les filles, on veut bien les voir, mais dans les vestiaires, sous la douche, ou voilà, c'était vraiment des gros lourdingues. Je pense que si maintenant des choses comme ça se disaient, ça serait tout de suite sur MeToo, sur Balance ton porc, quoi. C'est triste, mais c'était la banalité aussi de l'époque. Hein. On s'est dit, la vache, ça doit leur poser un sacré problème. Malgré tout, mais voilà, on parlait de nous, et c'était ça, c'était important de faire le buzz de l'époque, quoi.
Et elle faisait le buzz, Mathieu, parce qu'elle gagnait les matchs. Leur palmarès, c'est notamment 5 titres de championne de France.
Et elles sont fières, j'imagine, de l'engouement autour de ces Bleus qui démarrent ce soir.
Ah oui, bien sûr, elles ne rêvent que d'une chose, hein, c'est de les voir lever la coupe le 17 juillet prochain.
C'est bien ce qui leur arrive. Moi, je trouve que c'est formidable. Notre sport, qu'il soit arrivé à gravir tant de marches en 50 ans, après, la plus haute reste à gravir. Elle est championne du monde.
Et c'est un rêve qui a du sens pour ces pionnières, parce qu'en 1971, elles avaient participé, elles aussi, à une Coupe du Monde, mais une Coupe du Monde clandestine, officieuse. C'était au Mexique, elles avaient terminé 5e.
Merci Martin Fenot. La première Coupe du Monde féminine officielle, c'était en 1991. Et puis pour 2019, le premier match des Bleus, c'est donc ce soir face à la Corée du Sud. Dès 20h, je vous le rappelle, Europe 1 vous fait vivre cette Coupe du Monde des Bleus. Grande soirée en public, animée par Lionel Rosso, dans notre beau studio Pierre Belmar. Nous sommes aussi en direct du Parc des Princes, bien sûr, avec le service des sports de la rédaction mobilisé. Il est 7h13.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
À suivre, Mathieu.
L'édito éco signé Nicolas Barré. Nicolas, ce matin ?
Eh bien, ce matin, je vais vous dire ce qui va changer avec la réforme de l'assurance chômage, notamment pour les cadres.
Et puis à 7h20, les centres commerciaux qui font leur crise de la cinquantaine, on change tout, ou presque. Plus de services, plus de technologies autour du caddie, plus de lumière aussi, vous allez l'entendre. Quel avenir pour les 500 000 emplois du secteur ? Europe 1 va plus loin, dossier complet dans un instant. À tout de suite.
Un bon réveil avec Mathieu Béliard jusqu'à 9h sur Europe 1. Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Mathieu Béliard.
Les députés l'ont voté cette nuit, la limitation à 80 km/h sera bien assouplie sur les routes secondaires. La décision reviendra au département et aux maires. Le mondial féminin qui démarre ce soir à Paris, France-Corée du Sud, au Parc des Princes, soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. Et puis la météo, ça souffle déjà très fort sur la façade ouest. Alerte orange sur 8 départements, l'arrivée de la tempête Miguel. La journée sera assez pluvieuse dans l'ensemble et des températures cet après-midi de 14 à 30 degrés.
La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30. Europe 1. Économie à présent, Mathieu, c'est l'édito éco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction du journal Les Échos. C'est la prochaine grande réforme que l'on attend, celle de l'assurance chômage. Et ce matin, vous pouvez nous révéler ce qui se prépare.
Et ce qui se prépare, bien, c'est un durcissement des conditions pour pouvoir toucher le chômage. Le Premier ministre le dira lors de son discours de politique générale le 12 juin. L'objectif, c'est de faire autour de 1 milliard d'euros d'économies. Aujourd'hui, vous savez, il faut avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois pour toucher le chômage. Après la réforme, il faudra avoir travaillé 2 mois de plus, donc 6 mois sur une période plus courte de 24 24 mois. Pour dire les choses autrement, aujourd'hui, il faut avoir travaillé seulement un jour sur 7 pour avoir droit au chômage, c'est pas beaucoup. Après la réforme, il faudra avoir travaillé un jour sur 4. Vous le voyez, c'est plus dur, même si ça reste plus généreux qu'ailleurs. En Allemagne, par exemple, si vous n'avez pas travaillé au moins un jour sur 2 sur une période donnée, vous n'avez pas droit au chômage.
Les conditions pour toucher le chômage seront donc plus dures, mais est-ce que les indemnités seront réduites aussi ?
Alors oui, le gouvernement va proposer qu'elles deviennent dégressives après 6 mois pour les hauts revenus, autrement dit les cadres. Le seuil de revenus en l'occurrence n'est pas encore fixé. Et puis, autre source d'économie potentielle, le gouvernement est bien décidé à instaurer un système de bonus-malus pour les entreprises qui abusent des CDD avec des gens, vous savez, qui alternent sans arrêt des périodes de travail et de chômage payées par la collectivité. C'est vrai que quand ce système d'indemnisation du chômage est généreux, eh bien ça pousse à ce genre de pratique et on constate des abus dans certains secteurs.
Alors pour le coup, c'est une réforme que le patronat conteste ?
Oui, parce qu'il n'est pas du tout prouvé qu'en taxant les entreprises qui recourent le plus à des CDD, ça encouragera vraiment l'embauche en CDI. Mais c'est une réforme qui est soutenue par une large majorité de Français, 73% selon un sondage Elabe réalisé avec l'Institut Montaigne. Au passage, d'ailleurs, quand on demande aux Français quelles sont les principales raisons du haut niveau de chômage en France, eh bien ils citent en premier à 42% le système d'indemnisation qui n'encouragerait pas assez le retour à l'emploi. Autrement dit, les Français sont assez pour durcir les règles pour que le système soit moins généreux, en fait, pour qu'on se rapproche de ce qui se pratique ailleurs en Europe.
Merci Nicolas Barré, l'édito Écho tous les matins sur Europe 1.
Mathieu Béliard. Il est 7h19, Europe 1 va plus loin avec une enquête ce matin, Mathieu, consacrée aux centres commerciaux de demain.
Il y a 50 ans, on essaie les trois premiers centres commerciaux français, Cap 3000 dans le Var, Parly 2 dans les Yvelines et Anglo les Géants dans le Nord. Un demi-siècle après leur création, ces centres commerciaux ne ressemblent plus vraiment à ce qu'ils étaient. Une réalité, écoutez bien, certains grands centres de province ont perdu jusqu'à 15% de leur clientèle ces dernières années. Alors pour pallier la baisse de fréquentation, on découvre des centres plus lumineux, bourrés de nouvelles technologies et des centres qui proposent de nouveaux services. On va en parler avec vous, Maud Descamps, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes journaliste au service économie de la rédaction d'Europe 1. Les centres commerciaux en France, c'est un énorme secteur économique avec 525 000 emplois en France.
Eh bien oui, c'est plus par exemple que le secteur automobile, 400 000 emplois. Il y a 834 centres commerciaux un peu partout sur le territoire en France. Ces centres, ils ont surtout été construits dans les années 70. Rien qu'en 1972, 46 centres commerciaux ont ouvert. C'était une année record. Cette année, il y a 14 projets de nouveaux centres et 23 projets de rénovation et d'extension. Et l'enjeu économique est de taille derrière tout cela, parce que les centres commerciaux, c'est un quart du chiffre d'affaires du commerce de détail en France.
Avec l'augmentation du prix du carburant et le commerce en ligne, il faut redonner envie aux clients de faire le déplacement. Comment ? Maud, vous vous êtes rendu en Seine-et-Marne, où le centre commercial Carré-Sénart vient d'être entièrement redessiné. On écoute votre reportage.
Sur l'immense parking de 6000 places, un petit compteur à l'entrée de chaque allée indique le nombre d'emplacements disponibles, mais aussi les bornes de recharge électrique. Et au plus près de l'entrée du centre commercial, les places réservées aux familles. Une nouveauté qui facilite la vie de Cyril. Il vient ici au moins une fois par semaine avec sa femme et son fils de 3 ans.
Il n'y a quasiment rien en centre-ville. Du coup, ça nous permet d'avoir tout sur place ici. C'est un peu notre centre-ville en fait. Enfin, même avec un enfant ici, ça le permet de lui de gambader un peu. C'est ce côté pratique.
200 boutiques, 240 millions de travaux, notamment pour l'immense verrière de 8 mètres de hauteur de la nouvelle extension. Et une obsession pour Valérian Mercier, directeur du centre commercial, proposer sans cesse de nouveaux services.
Le client d'aujourd'hui, il va passer sa journée sur le centre, mais il va vouloir vivre de nouvelles expériences et des expériences dont il va se rappeler. Donc on a voulu adapter nos services. Je vais vous en citer deux. C'est la garderie du centre qu'on a ouverte cette année. Le deuxième étant le Poney Club qu'on a ouvert au printemps de cette année.
Une expérience unique qui passe aussi par la restauration. Ici, plus de 45 points de vente différents. Une offre essentielle, précise ce responsable. Deux clients sur trois des centres commerciaux restent sur place pour déjeuner.
Deux clients sur trois qui choisissent leur centre commercial en fonction des restaurants. C'est donc devenu un enjeu majeur.
Ben oui, il suffit de regarder les chiffres. Les espaces de restauration ont doublé leur surface ces dernières années. Ils sont passés de 7% à 14% des surfaces globales. L'offre se diversifie. Mexicain, libanais, il y a des brasseries, il y a un peu de tout. Et surtout, cette offre, elle monte en gamme avec des chefs étoilés qui s'installent maintenant dans les centres commerciaux, comme à Vélizy 2, par exemple, où le chef Thibaut Sombardier s'apprête à ouvrir un restaurant.
Alors finalement, si on force le trait, est-ce qu'on vient encore faire ses courses dans les centres commerciaux ?
Oui, mais à une condition, que ce soit facile Et cela, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Jean-Marc Gestin est le patron du groupe Clépierre, leader dans la gestion des centres commerciaux.
Mais il faut surtout que les magasins deviennent un peu plus expérientiels. La technologie, elle va investir tout le monde du commerce, ça va être fantastique. On parle de magasins où on ne passe plus dans les caisses pour payer. Il y a la reconnaissance faciale qui permet aussi de payer. Il y a la réalité virtuelle et augmentée qui permet, avec des miroirs, de regarder comment on peut être habillé. Il y a plein de choses qui font que la technologie va redonner un sens nouveau aux magasins.
Vous voyez, hein, la mue des centres commerciaux, dans les années 70, c'était l'apprentissage de la consommation de masse. Eh bien, c'est devenu aujourd'hui un service personnalisé. Le plaisir avant les corvées ménagères.
Merci Maud Descamps. Une enquête préparée avec Maya Sido. Un dossier signé Europe 1 va plus loin.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
À suivre l'innovation du jour, Mathieu.
Avec Anissé Mbida. Bonsoir, bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment
on est le matin. Anissé de nouveau dans la lutte contre les spams téléphoniques.
Oui, avec une bonne nouvelle, hein, c'est que nos téléphones portables vont bientôt filtrer automatiquement les appels.
C'est une excellente nouvelle.
Ça, c'est vrai.
À tout de suite, Anissé.
Un très bon réveil sur Europe 1 avec Mathieu Béliard jusqu'à 9h. Il est 7h23. Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, Mathieu, c'est avec Anissé Mbida.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu.
Une merveilleuse nouvelle pour tous ceux qui n'en peuvent plus du démarchage, des appels frauduleux, des arnaques aussi, il faut bien le dire. On aura bientôt des protections directement dans nos téléphones.
Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin de télécharger une application spéciale ou de se créer, vous savez, ces fameuses listes de numéros à bannir. Le téléphone passera automatiquement les appels au peigne ultra fin, par exemple. Il va bloquer automatiquement les numéros masqués ou inconnus et il n'acceptera que les appels qui sont des personnes qui sont dans votre carnet d'adresses. Et sur l'iPhone, ça ira même beaucoup plus loin puisqu'il ira jusqu'à regarder dans les mails et dans les SMS pour savoir si la personne n'a pas déjà été en contact une fois avec vous. Sinon, dans ces cas-là, si la personne ne fait pas partie de votre carnet d'adresse, le téléphone ne sonnera même pas, on ne verra rien sur son téléphone portable.
Alors, pour le coup, c'est une bonne nouvelle, mais si c'était un appel important ?
Alors, d'abord, ça sera une option, hein, on ne sera pas obligé de l'activer. Hein, si on est un commercial ou si on est Mathieu Béliard, journaliste, on pourra l'activer. Et surtout, les appels seront renvoyés automatiquement vers la messagerie, donc on pourra toujours les écouter sur la messagerie vocale. Alors ça, c'était chez Apple, mais chez Samsung et Google, on prévoit même de demander à l'assistant vocal de répondre à notre place. Ça veut dire que la conversation va être retranscrite en direct, en temps réel, sur l'écran. Et si, finalement, on veut parler à la personne, hein, on se rend compte que c'est quelqu'un à qui on veut parler, toc, on décroche et reprend la conversation au beau milieu, comme on le faisait à l'époque du fameux répondeur à cassette.
Vous souvenez ? Oui, très bien.
On filtrait les appels.
C'est loin, mais très bien. Quand est-ce que ça va arriver ?
Cet automne, en septembre pour les téléphones Android et en octobre pour les iPhones.
Alors, on va le rappeler aussi, si on est victime d'un appel ou d'un SMS abusif, il faut le signaler au 33-700, c'est très efficace puisque ça remonte aux opérateurs et le numéro finira par être banni. Merci Anissé.
C'était l'innovation du jour avec EDF bâtiments durables, éclairages intelligents, mobilité électrique. Avec EDF, donnons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur edf.fr. Dans deux minutes, tout pile, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Mathieu.
Laurent, pourquoi est-ce que cette tempête Miguel nous fait peur ?
Tout simplement parce que les arbres ont des feuilles. C'est aussi bête que ça. En général, les tempêtes d'hiver sont bien sûr les arbres ont bien sûr les arbres dénudés, donc il n'y a pas de prise au vent, et là, la prise au vent est beaucoup plus importante. Et donc, les arbres sont plus vulnérables. Deuxième raison, c'est la terre qui est humide parce qu'il a plu, et donc le déracinement est plus facile. Voilà, c'est la raison pour laquelle elle nous fait peur. Ah, c'est une tempête de 120, comme l'on dit en termes météorologiques, c'est-à-dire que c'est une tempête de 120 km/h, c'est pas une tempête terrible, hein, loin s'en faut, mais elle nous effraie parce que nous sommes en cette période de l'année où 5% seulement des tempêtes ont lieu, c'est-à-dire en juin et juillet. Bon, alors, maintenant, les départements vigilance, Charente-Maritime, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne, ce sont les départements donc les plus dangereux. Et puis, sachez que tout au long de la journée, eh bien, les pluies vont traverser la France avec des orages. Alors, la grande question, si je puis dire, c'est Roland-Garros, c'est donc Paris, où on a vraiment les yeux rivés sur ce qui se passe dans cette région. Et la pluie, il pleuvra certainement, mais les grosses pluies, ce sera plutôt ce soir, avec les orages sur la région parisienne, comme sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes et la vallée du Rhône. Voilà, en sachant que sur la Bretagne, sur toutes les régions qui bordent l'Atlantique, là, ce sera du gros temps toute la journée pratiquement, avec à l'écart tout de même, le sud-ouest du pays, Béarn, Midi-Pyrénées notamment.
Merci Laurent Cabrol. À suivre, l'échec de la fusion Fiat-Renault. L'État a tout fait capoter. mais ce n'est peut-être pas plus mal. Axel de Tarle et le Zoom Echo à 7h43, mais aussi garder la coupe à la maison, les Bleus ES face à leur destin et face à leur public qui ne demande qu'à être conquis. Est-ce que vous avez prévu de suivre le parcours de l'équipe de France féminine? Venez nous le dire au 39-21. Jean-Michel Apathy pour son édito à 7h40 et à 7h45, l'artisan qui a permis cette Coupe du Monde en France et qui se bat pour le développement du foot féminin, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Foot, en exclusivité sur Europe 1 ce matin. Céline, vous aimez Jane?
J'aime beaucoup.
La chanson
officielle
de la Coupe du Monde féminine.
Très bien, je danse d'ailleurs.
Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde de foot féminin. Bon réveil à tous.
Nous sommes le vendredi 7 juin, il est 7h30.
7h, 9h.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
7h30, le journal avec Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Deux monstres du tennis se retrouvent cet après-midi sur le central de Roland-Garros. 14 ans après leur première et seule demi-finale Porte d'Auteuil, Roger Federer et Rafael Nadal se défient pour une place en finale, en espérant qu'ils passent entre les gouttes de la pluie, est à nouveau attendu cet après-midi. Christophe Lamarre.
Roger Federer et Rafael Nadal, adversaires sur le court. Mais l'opposition existe aussi et depuis longtemps dans les tribunes comme dans les cœurs. Roland Garros n'échappe pas à cette règle. On est pour l'un ou pour l'autre, rarement pour les deux, comme l'explique Philippe.
J'ai connu rarement des gens qui aimaient Federer et Nadal.
Ah oui?
Ah oui, ils étaient ou Federer à fond ou Nadal, complet. Comme Messi et Ronaldo, c'est pareil. Il n'y a pas, c'est ou l'un ou l'autre. C'est deux techniques en plus différentes, pareil que le football. Les deux sont différents, la puissance et l'autre plus technique. Pareil, c'est la même image.
C'est une image, oui, mais la réalité est là. Parler de Nadal ou de Federer dans les allées, c'est tracer une ligne fictive. On ne peut pas avoir un pied de chaque côté. On peut aussi choisir de ne pas choisir, comme Sophie, qui a longtemps hésité.
Pour le jeu, je préfère Roger. Pas pour le personnage, parce qu'il n'est pas toujours sympa dans les allées. Il aime bien se tenir à l'écart du public.
Et Rafa, alors?
Rafa, c'est différent. Il traverse les allées, mais il a toujours une horde de garde du corps autour de lui.
Federer et Nadal inaccessibles, chacun à leur manière. C'est bien la première fois qu'ils mettent tout le monde d'accord.
Christophe Lamarre pour Europe 1.
Il a raison Christophe, c'est un véritable engagement que de dire s'il y en est Nadal ou Federer. Vous Céline?
Federer, évidemment.
Mais tout le monde est Federer.
Je suis suisse, moi, vous savez.
Allez, ça y est, je m'engage. Rafa Nadal.
Allez, ça y
est, il faut bien le dire. À un moment, 39-21, le hashtag Europe 1, n'hésitez pas.
Et on suivra aussi la rencontre Djokovic-Team ainsi que les deux demi-finales dames dès 11h. L'autre événement sportif du jour, c'est bien sûr le début de la Coupe du Monde de foot féminin avec les Bleus qui vont tenter, vous le disiez, de garder la Coupe à la maison. Elles affrontent ce soir à 21h la Corée du Sud.
Émission spéciale dès 20h sur Europe 1 avec Lionel Rosso. Grande soirée en public au studio Belmar et le match à suivre évidemment en intégralité.
Les 80 km/h, ce fut l'un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes. Hier soir, l'Assemblée est revenue sur cette mesure et a voté la possibilité d'assouplir la limitation. Ce sont désormais les maires et les départements qui décideront.
Et puis Anne Hidalgo qui a pris des mesures contre les trottinettes électriques.
Oui, on peut le dire, c'est l'anarchie parfois dans les rues de Paris entre les vélos, les piétons, les trottinettes et bien sûr les voitures. La mairie a donc décidé d'interdire le stationnement des trottinettes sur les trottoirs et demande dès aujourd'hui au préfet de police un arrêté en ce sens. Pas question d'attendre le vote de la loi mobilité. Aude Vernuccio.
À la sortie des bureaux, près des stations de métro ou en bas des immeubles, même constat, des trottinettes qui s'entassent sur les trottoirs et des usagers qui ne circulent pas toujours sur la route, malgré l'amende de 135 euros, souvent parce qu'ils connaissent mal les règles.
Malheureusement, les gens en abusent, les gens vont trop vite sur le trottoir, ils font du slalom entre les voitures, comme monsieur qui vient de passer. Je vois certains qui les mettent en plein milieu ou qui gênent vraiment le trottoir. Donc...
J'évite de la mettre en plein milieu quand même.
Bon, ça c'est interdit.
Ok, je savais pas. Prendre le temps de se garer pour une trottinette, c'est vrai que c'est pas non plus l'idéal, mais ça me paraît logique.
Désormais, tout sera écrit noir sur blanc dans un arrêté. Vitesse limitée à 20 km/h. Stationnement interdit sur les trottoirs. Vous devrez trouver une place. Un cadre mieux défini pour les opérateurs de trottinettes, comme Henri Capoul, directeur de Bolt.
Si vous louez une trottinette électrique, vous êtes responsable de votre conduite. Nous, on a mis en place un plan de communication avec des règles qu'on fait tourner sur les réseaux sociaux avec des quiz. Mais c'est vrai que l'utilisateur qui découvre encore ce moyen de transport n'est pas encore très clair. Donc c'est bien que la mairie de Paris prenne la parole pour aller clarifier tout ça.
D'autant que la trottinette électrique devient un moyen de transport de plus en plus utilisé, au point que les loueurs envisagent de souscrire des assurances pour couvrir les utilisateurs en cas d'accident.
Reportage est signé Aude Vernuccio pour Europe 1. Dans l'actualité également, une femme enceinte poignardée à plusieurs reprises par son conjoint. Ça s'est passé mercredi soir en Seine-Saint-Denis. Le fœtus de 5 mois n'a pas survécu. L'homme s'est rendu de lui-même au commissariat accompagné de ses enfants de 5 et 7 ans. Il avait déjà des antécédents de violence conjugale.
Elle s'appelle Adeline Dieudonné et pour son premier roman, La vraie vie aux édition L'Iconoclaste, elle a connu un succès fulgurant.
Oui, cet auteur belge de 36 ans collectionne les prix depuis un an, 14 au total, dont le prix Renaudot des lycéens. Nicolas Carreau l'a rencontré pour Europe 1.
En août 2018, Adeline Dieudonné est comédienne à Bruxelles et vit de petits boulots. En septembre, elle devient le phénomène de la rentrée littéraire en France. La presse et les libraires sont enthousiastes, le public aussi. Depuis, 260 000 exemplaires vendus et 18 traductions. Le seul problème maintenant, c'est de trouver le temps pour écrire le deuxième.
Je suis tout le temps dans des trains, dans des librairies, dans des festivals. Et c'est super gai, mais c'est pas du tout propice à l'écriture. Quand j'écris, j'ai vraiment besoin d'être complètement concentrée. J'ai besoin de silence, j'ai besoin de solitude, qui est l'exact opposé de ma vie depuis 6 mois.
Cette semaine, son éditeur organisait une rencontre avec l'équipe du prix Renaudot des lycéens. Camille, en terminale, membre du jury, a lu le livre 2 fois. Elle a défendu La vraie vie. Elle est particulièrement heureuse d'être là.
Rencontrer l'auteur, c'est pouvoir mettre un visage sur la personne qui a écrit le livre, pouvoir poser des questions, pouvoir échanger avec elle, donner notre point de vue. C'est pas qu'un simple livre qu'on a lu, qu'on a aimé et on passera à autre chose.
Et La vraie vie continue sa success story. Les droits ont été achetés pour le cinéma et le théâtre. En attendant, le deuxième roman d'Adeline Dieudonné d'ici 1 an ou 2.
Nicolas Carreau.
Et on lit, merci Céline Kallmann, on lit vos réactions sur les réseaux sociaux, sur le hashtag Europe 1. Est-ce qu'ils ont choisi leur camp entre Nadal et Federer ?
Il y a Marie qui nous écrit que Raphaël Nadal l'impressionne avec son jeu de gaucher. Elle ne le trouve pas non plus désagréable à regarder jouer. Et puis Yanis qui dit, pour ma part, le cœur dit Federer, mais la raison dit Nadal.
À suivre, l'édito avec vous, Jean-Michel Apathy.
Oui, bonjour Mathieu. On va parler de football. La Coupe du Monde de football démarre aujourd'hui. Des femmes sur la pelouse, ce qui suscite un vrai courant de sympathie et aussi, hélas, il faut bien le dire, une petite dose de bêtise.
Vous allez suivre ou pas cette Coupe du Monde féminine ? Appelez-nous au 39-21. Et puis l'économie, Axel de Tarlé.
La fusion Renault-Fiat a capoté et c'est tant mieux.
Apathy Tarlé, c'est dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h36. Il est 7h39, Mathieu Béliard, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour
les
Mathieu.
Les Bleus donnent ce soir le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de foot face à la Corée du Sud. Et il y a un vrai engouement autour de la compétition.
Oui, un courant de sympathie, on le sent. D'abord, on espère, bien entendu, puisque la compétition se déroule en France, qu'elle se termine le 7 juillet. La France sera sur le terrain le 7 juillet, opposée on ne sait pas qui. Et pourquoi pas, elle gagnera. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un courant de sympathie. Le football joué par des femmes, on découvre un peu, est-ce que vous savez quand a eu lieu le premier match de foot joué par des femmes ? Vous ne le savez pas, parce que moi en plus je ne le savais pas, j'ai regardé, je ne vais pas faire le malin, 1863, dans le pays de toutes les transgressions qui est l'Angleterre, bien évidemment, parce que les Anglais, quand ils peuvent, ils cassent tous les codes. Et en France, le premier match de foot joué par des femmes, c'est 1890. Je vous renvoie un livre, parce que là, j'ai l'air d'être très intelligent et de tout connaître.
Il est bon, on a tous révisé le foot féminin, là. Mais...
Laurence Prudhomme-Poncet, qui a écrit l'histoire du football et des femmes chez l'Harmattan. Et c'est un livre où on apprend plein de choses. Le régime de Vichy a interdit aux femmes de jouer au football en 1941, parce que c'était pas bon pour la santé. Bien entendu, quand on parle de football et de femmes, la misogynie s'introduit. Par exemple, la Fédération française de football a longtemps refusé de donner des licences aux femmes et elle n'a cédé à ce principe viril et macho qu'en mars 1970. Mai 68 est passé par là, vous voyez, mai 68 a eu des effets quand même un peu inattendus. Et on se dit, la misogynie et le football, ça appartient au passé. Aujourd'hui, on n'est pas misogyne. Eh bien, il fallait écouter mercredi soir sur CNews, face à Sonia Mabrouk, le philosophe, intelligent, cultivé, Alain Finkielkraut. Est-ce que vous allez regarder les matchs de l'équipe de France féminine de football ? Réponse d'Alain Finkielkraut, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir les femmes. Fermez le banc, monsieur Finkielkraut, prenez des vacances. Ça vous fera du bien. Et la misogynie, elle peut être inattendue, invisible. Il ne faut pas dire Coupe du Monde de football féminin, parce que ça n'existe pas le football féminin. Parce que les règles du football sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Il faut dire Coupe du Monde féminine de football. Et voire, il faut dire Coupe du Monde de football, parce qu'on ne dit pas Coupe du Monde masculine de football. Avec tout ça, on est paré pour regarder la compétition et la France va gagner. Enfin, on l'espère.
Écoutez bien, Jean-Michel, on a Sylviane qui est en ligne avec nous. Elle est dans l'Ain, à la retraite. Elle a entraîné une équipe de foot par le passé. Bonjour Sylviane.
Bonjour Mathieu.
Soyez la bienvenue sur Europe 1 au 39-21. Justement, par rapport à ce que disait Jean-Michel, sur votre licence, c'était pas Sylviane, je crois.
Alors, on avait marqué Sylvain, donc je leur ai renvoyé en leur disant que le fait que je fasse du foot n'empêchait pas d'être féminine. Donc, on a raturé, on m'a renvoyé le... Donc, mon diplôme était signé par Michel Hidalgo, quand même. Hein.
Ah,
voilà.
Oui, Sylvain.
Vous
allez suivre les Bleus, évidemment, Sylviane.
Comment ? Bien sûr.
Vous serez derrière, en tant que supportrice, finalement, derrière cette équipe de France. Comment on dit Coupe du Monde féminine de football ?
Ouais,
je corrige.
Oui,
vous êtes d'accord avec Jean-Michel, non ?
Oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Mais en plus, ce que je voulais dire, c'est que dans le foot féminin, il y a une esthétique. Moi, je suis très sensible à l'esthétique du geste. Et je me suis déjà régalée avec certains joueurs qui avaient vraiment un très beau geste quand ils renvoyaient la balle, quand ils arrêtaient la balle, etc. Et là, je crois qu'avec les filles, je vais me régaler.
Eh bien, écoutez, j'espère qu'on va se régaler. Et comme disait Jean-Michel, j'espère surtout qu'on les retrouvera au mois de juillet, le 7 juillet, pour la finale. Gardez la coupe à la maison, c'est ce qu'on chante ce matin sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde féminine de football.
Bravo Mathieu.
Merci beaucoup de votre appel Sylviane au 39-21. Axel de Tarlé est avec nous pour le Zoom Echo.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Axel. L'État a fait capoter la fusion Fiat-Renault et vous nous dites que c'est pas plus mal?
Ben oui, parce qu'avec cette opération, on va se dire les choses, Renault devenait italien. Et franchement, se dire que la première marque automobile du pays, Renault, dont on nous disait jusqu'à très récemment qu'avec Carlos Ghosn et l'alliance Renault-Nissan, nous étions devenus le premier groupe automobile mondial. 10 millions de voitures vendues devant Volkswagen, devant Toyota, devant General Motors. Franchement, il y avait un côté épopée napoléonienne là, avec Carlos Ghosn et Renault sur le toit du monde. Et là, brutalement, ça devenait Waterloo, alors non pas avec les Anglais à la manœuvre, mais avec les Italiens qui rachetaient notre Français, notre champion mondial, Renault.
Alors pourtant, on nous a parlé d'une fusion à 50-50, une fusion entre égaux.
Oui, alors ça, les fusions entre égaux, ça n'existe pas. Dans les fusions, il y a toujours un acheteur et un acheté. Et là, en l'occurrence, l'acheteur, c'était le camp italien qui devenait le premier actionnaire du groupe. Alors on pourrait se dire là, et alors ? Si ça permet de créer un champion européen, vous savez, un Airbus de la voiture, capable de peser demain face aux Chinois, capable aussi de peser au passage face aux Japonais. Tant mieux. Écoutez, on a fait l'Europe pour ça, pour être plus forts, tous ensemble. Eh bien, sauf qu'on le voit bien, et on en a la preuve, ce sentiment européen est bien faiblard. Je vais vous rappeler quelques opérations financières. Quand BNP rachète Paribas, c'était au tournant des années 2000, tout le monde a dit « bravo ! On crée un champion français de la banque ». Quand Total rachète Elf, on dit « bravo ! On crée un champion français du pétrole ». Mais quand Fiat rachète Renault, on ne dit pas « bravo », on parle du hold-up des Italiens qui viennent rafler nos technologies. Vous voyez, ici s'arrête le sentiment européen. Et c'est normal, aucun pays n'a envie de perdre ses centres de décision et ses usines. On le voit bien, c'est ainsi. On préfère voir Renault rester seul en France avec ses problèmes plutôt que de voir Renault devenir italien, dirigé depuis Turin. C'est comme ça, et c'est vrai, c'est un peu triste pour le sentiment européen.
Merci Axel de Tarlé pour le Zoom Echo.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Dans un instant, c'est l'un des artisans du développement de ce foot féminin, même si Jean-Michel va me corriger, Noël Legret, président de la Fédération Française de Foot. Il va falloir qu'on s'adapte aussi. Il va falloir aussi que nous, les garçons, nous apprenions à en parler correctement. Hey. France-Corée du Sud en ouverture du Mondial ce soir. Je le reçois en exclusivité ce matin, Noël Legret, dans quelques instants. À tout de suite.
Et continuez à nous envoyer vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1, et puis à nous appeler pour agir en direct, comme Christiane, au 39-21, c'est 50 centimes la minute. Il est 7h46, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Mathieu Béliard.
8 départements de l'ouest du pays qui vont de la Loire-Atlantique à l'Indre et à la Charente-Maritime, placés en vigilance orange par Météo France, arrivée de la tempête Miguel, des rafales de 110 à 120 km/h sont attendues. Theresa May doit quitter aujourd'hui la tête du Parti conservateur. Elle reste Première ministre britannique jusqu'à la désignation de la personne qui lui succédera d'ici à la fin du mois de juillet. Et puis la Coupe du Monde féminine de foot débute ce soir. Coup d'envoi 21h au Parc des Princes, France-Corée du Sud. Ce sera à suivre évidemment sur Europe 1, radio officielle de cette Coupe du Monde, soirée spéciale dès 20h avec Lionel Rousseau.
Europe 1.
Et vous le disiez Mathieu, c'est ce soir le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de foot. En match d'ouverture, les Bleus affrontent la Corée du Sud au Parc des Princes. Vous recevez Mathieu Béliard ce matin, l'un des plus ardents défenseurs du football féminin, le président de la Fédération Française de Foot, Noël Legret.
Monsieur le Président Legret, bonjour.
Oui, bonjour.
1 million de billets vendus, quasiment, les chaînes de télé qui vont diffuser les matchs. Nous-mêmes, d'ailleurs, une soirée spéciale sur Europe 1 pour l'ouverture de cette Coupe du Monde. Une première Coupe du Monde féminine organisée en France. Elle est déjà gagnée, finalement.
Alors, sur le côté populaire, oui. Sur le côté des médias, oui. On n'a jamais eu autant de médias à s'intéresser au football féminin. Et pour nous, c'est important, parce que pour le nombre de licenciés, je suis persuadé qu'on fera un bond. Ce qui est important, quand même, c'est que les gens ont suivi. Parce qu'à un moment, on se disait peut-être que pour l'équipe de France, les stades sont pleins. Mais il me semble que ce matin, on est à 15 guichets fermés.
Parce qu'on a aussi une belle équipe de France féminine de football, quatrième au classement de la FIFA. Je me souviens, il y a de ça un an, l'objectif pour les garçons, c'était les demi-finales. Là, vous parlez d'un objectif final. Vous êtes plus sévère avec les filles.
Oui, parce que, écoutez, on n'aura pas beaucoup de chance de rejouer une Coupe du Monde en France. Voilà. au moins 5 continents, voire 6 dans le football. Et vous savez que la FIFA tourne, et même si ça revient en Europe, ça fait 24 ans. Donc c'est l'occasion ou jamais. Je pense qu'on est dans les meilleurs, avec des jeunes femmes qui sont talentueuses, qui jouent la moitié, ont quand même gagné la Coupe d'Europe avec Lyon. On a, je trouve, une équipe très complémentaire, et puis un coach qui me semble être au niveau de la gagne. Mais là, je me dis effectivement, les dire objectif quart de finale ou ce genre de truc, ça n'a pas de sens. Et puis en plus, elles ont envie qu'on leur donne un objectif.
Est-ce que vous comprenez Noël Le Graët, parce que ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, dans la presse aussi, il faut bien le dire. Est-ce que vous comprenez que les filles soient moins payées que les garçons? Est-ce que c'est normal?
Oui, ben, il n'y a aucun problème avec les filles. C'est quand on m'a posé la question, quand j'ai discuté de primes avec les filles, parce que ça fait partie aussi du jeu, hein, de recevoir les jeunes filles et de voir combien on peut leur donner. Bon, elles avaient quelques exigences, ce qui est normal. Mais j'aurais posé la question, est-ce que vous gagnez la même somme à Lyon que les garçons de Lyon? Ils m'ont dit non, monsieur, non, on est très loin. Ben, écoutez, nous, c'est pareil, la FIFA a fait des efforts importants, très importants, par rapport à il y a 4 ans. Donc elles sont mieux rémunérées, mieux préparées surtout, staff équivalent aux garçons, donc traitées dans des bonnes conditions. Bon, ce qui est important, c'est que nos filles puissent vivre du football, un certain nombre d'entre elles, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a Lyon et le PSG, c'est tout. Dans les autres équipes, il y en a 4 ou 5 qui sont payées normalement, mais un petit peu au-dessus du SMIC, et d'autres qui sont obligés de travailler. Mais il faut laisser le temps au temps. On n'a pas aujourd'hui une structure économique suffisante pour assurer un métier total à beaucoup de jeunes filles.
L'intérêt pour le foot féminin en France se développe. J'ai retrouvé cette phrase qui remonte à 1918 de l'essayiste Charles Torquay. On ne voit pas une jeune fille comme il faut en train de faire du football en costume de garçon avec de gros souliers boueux et la voir courir comme une folle, la figure rouge et suante et surtout se bousculer avec d'autres jeunes filles plus ou moins comme il faut. C'est très vieux, ça a plus d'un siècle, mais vous savez que certains pensent encore comme ça.
Alors non seulement certains pensent encore comme ça, mais ce matin j'avais une réunion, ou hier matin, une réunion à Paris, où tous les pays du monde sont présents. Et il y a encore des nations où c'est complètement difficile pour les jeunes filles de jouer au football. Le football unit, il y a 211 pays, je crois. 138 ou 140 ont aujourd'hui une équipe nationale. Mais c'est extrêmement difficile pour la moitié d'entre elles. Et il y a encore 60 pays qui raisonnent pratiquement comme ça, soit pour des questions religieuses, ou soit pour des questions d'esthétique, ou d'hommes et de femmes. Et moi, je veux dire que le spectacle, celles qui vont regarder la Coupe du Monde ce soir, à partir de ce soir, vont être étonnées du jeu. Et moi, ce qui m'intéresse, effectivement, ce que je souhaite, c'est que ceux ou celles qui n'ont pas encore regardé un match de foot féminin, eh bien, elles vont voir la qualité du jeu technique, que les filles jouent bien, elles ont des qualités au-dessus de la moyenne au niveau technique, vision du jeu, respect de l'arbitre, pas besoin de 4 ambulances sur le terrain, elles ne se roulent pas par terre sans arrêt. Je crois qu'effectivement, les gens vont être très surpris de la qualité.
Revenons à ce qui nous passionne aujourd'hui, ce vendredi soir. Vous ne manquerez pas sur Europe 1, j'en suis sûr, cette soirée spéciale dans le studio Pierre Belmar avec le club Europe 1 France-Corée du Sud, avec Sandrine Roux, ancienne capitaine de l'équipe féminine de football, qui sera notre consultante pour cette compétition. Un dernier mot, Noël Le Graët, ce matin. Quel sera justement votre dernier mot aux filles avant le match ce soir?
Ben écoutez, je vais leur rendre une petite visite à l'heure du déjeuner. C'est plus un message de confiance. Il ne faut pas qu'elles soient trop stressées, parce que comme on parle tellement d'elles, elles ne sont pas habituées à ce point. Il y a une médiatisation très très forte. Nous-mêmes, moi-même, on a mis la barre très très haut. Donc il faut qu'elles puissent être très naturelles, je ne vais pas dire décontractées, mais surtout souriantes et heureuses de jouer.
Merci Noël Le Graët.
C'est moi qui vous remercie.
Et allez les Bleus ?
Allez les Bleus, on y va.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Oui, allez les Bleus à
allez
suivre.
Allez les Bleus !
Justement, c'est le jour J pour les Bleus. Coup d'envoi à Paris du Mondial Féminin de Foot. La France qui affronte donc la Corée du Sud. Le Parc des Princes sera plein à craquer. Attention, attention à la pression. On en parle dès le début du journal de 8h. Et puis dans une minute, nous irons à Londres pour la petite histoire de Jean-Philippe Ballas avec le chat officiel du 10 Downing Street.
Bon réveil à tous sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Il est 7h53. Il est 7h56 et c'est l'heure de la petite histoire du jour, Mathieu.
Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous savez quoi ? En Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May va s'effacer, mais Larry va rester. Et qui est Larry ?
Alors Larry est un chat. C'est le chat officiel du 10 Downing Street, la demeure du Premier ministre. Larry est un chat et c'est une star outre-Manche. Il a même un compte Twitter et un titre assez classe, souricier en chef du cabinet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Larry est chargé d'éparpiller façon puce les souris, les rats et autres rongeurs qui ont, paraît-il, une fâcheuse tendance à ignorer le protocole. Alors, on pourrait penser que Larry est un peu aristo vu son statut. C'est tout le contraire. Ce chat blanc et marron sorti d'un refuge, ce chat est un punk, adepte notamment du photobombing. Vous savez, cette technique qui consiste à taper l'incruste devant les photographes. Il l'a fait plus tard qu'il y a deux jours, lors de la visite de Donald Trump. Oui, vous le voyez parfaitement sur la photo officielle du président avec Theresa May, leur conjoint, dans la rue. Il est là, juste derrière, à gauche, au bord de la fenêtre. C'est bien Larry qui fait sa toilette en feignant d'ignorer le tumulte et les objectifs. Encore lui qui s'offre une petite sieste sous une voiture, pas n'importe laquelle, la limousine de Donald Trump encore et toujours, la grosse, la blindée, histoire de bien montrer au service de sécurité qu'il est ici, chez lui. Bien sûr, Larry sait que bientôt il changera de colocataire, Theresa May cédera sa place à un autre Premier ministre. Alors Larry essaie de ne pas trop s'attacher, il a déjà eu ça d'ailleurs avec David Cameron. Puis vous savez quoi ? Moi j'aime beaucoup cette phrase, les chiens ont des maîtres, les chats ont des serviteurs.
Tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat quand il est cat retombe sur ses pattes. Tout le monde est piqué de spasme.
Des belles chansons de Disney d'ailleurs.
Version Thomas Dutronc.
Ouais, on entend à la guitare même. Un peu manu. Tac tac. Merci Jean-Philippe Ballas, la petite histoire du jour et les Aristochats au passage.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol.
Alors Laurent, on en est où de cette tempête, Miguel ?
Ah ben ça y est, le pic commence maintenant à se manifester entre, disons, la Vendée et la ville de Royan, ou la Vendée et la Gironde. C'est à ce moment précis, donc jusqu'à 10h, que les vents seront les plus violents. Alors nous avons dit, c'est une tempête de 120, c'est-à-dire 120 km/h. Il ne faut pas non plus en avoir trop peur, hein, n'exagérons rien, parce que ce sont des tempêtes d'été, donc elles passent très vite. Demain, il n'y aura pratiquement plus rien. Donc il n'y a vraiment qu'aujourd'hui où on faire très très attention. Alors en ce qui concerne le Nord, la région parisienne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et Rhône-Alpes, nous serons concernés plutôt en deuxième partie de journée, parce qu'il faut savoir que dans les régions de l'Est, il fait particulièrement beau encore, mais ça ne va pas durer. Sachez que lorsque les arbres, j'en parlais tout à l'heure, lorsqu'ils se déracinent, lorsqu'ils se cassent, un arbre qui casse, c'est 150 km/h, donc vous voyez qu'on est loin, et donc je rassure tous ceux qui s'inquiètent, c'est une étude que l'on a faite lors de la tempête de 99. Voilà, pour le reste, patience, ça, vous aurez de la pluie forcément, même au long de la journée, et ensuite ça ira beaucoup mieux dès demain.
Un petit mot des températures, Laurent ?
Des températures entre 18 et 26-27 degrés, donc très chaud dans l'Est, et autour de 18-19 à Paris.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
On est bien sur Europe 1 ce vendredi 7 juin, merci pour votre confiance. Il est 8h, bon réveil. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Mathieu Béliard.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 8h, le journal David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour, David.
La une, elle tient en trois mots. Allez, les Bleus, c'est au tour des filles de faire vibrer la France. La Coupe du Monde commence ce soir. Les Françaises affrontent la Corée du Sud au Parc des Princes. Match d'ouverture. Y a-t-il quelqu'un pour sauver les Républicains ? Il y avait du monde pour demander la démission de Laurent Wauquiez, mais apparemment, personne ne veut le remplacer. Un plan J commence à circuler. J comme Jacob, l'actuel patron des députés LR à l'Assemblée. Et puis connaissez-vous la K-pop ? Cette musique coréenne fait fureur partout dans le monde. Nos ados sont nombreux à ne plus pouvoir s'en passer. Concert géant ce soir et demain au Stade de France.
À 8h12, Vladimir Poutine n'était pas invité hier en Normandie, mais il a tout fait pour ne pas se faire oublier, l'analyse de Vincent Hervouet. 8h15, le patron des régions de France, Audrey Crespo-Mara, reçoit Hervé Morin.
Europe 1.
Elles ont rendez-vous avec l'histoire. Les Bleus, match d'ouverture de la Coupe du Monde de football féminine. Ce soir, 21h au Parc des Princes à Paris, France-Corée du Sud. Les Françaises jouent tout au plus haut niveau, mais ne sont pas habituées à des stades pleins à craquer. Avec nous, Simon Rubin, cela va être l'un des enjeux. Simon, gérer la pression.
Oui, pour vous donner une idée, ce soir, on attend 47 000 personnes au Parc des Princes, alors qu'en moyenne, un match de championnat de France, vous avez entre 500 et 1 000 spectateurs. Donc les Françaises vont découvrir un nouveau monde. Dans le couloir qui mène des vestiaires à la pelouse, imaginez, elles vont entendre le bruit sourd de la foule, la sono hurlante, les flashs qui claquent. Cette ambiance-là, cette folie, c'est une pression et donc ce sera le principal danger pour les Bleus. Gaëtan Tiné, qui est pourtant une joueuse d'expérience, a d'ailleurs bien du mal à ne pas y penser.
Pour ma part, j'ai essayé de me préparer au mieux. Je suis allée voir plein de matchs au parc. J'ai essayé d'être très très proche de ce couloir pour ressentir un peu ces émotions et ça fait déjà beaucoup d'émotions. Il faut quand même dédramatiser. On est là pour jouer au foot. Donc c'est la difficulté et c'est ce sur quoi je suis très très concentrée.
Et puis au-delà du stade, les Bleus savent que des millions de personnes vont suivre leurs prestations. Elles ont senti l'engouement depuis des mois, l'attente qui se fait plus pressante. Et ce match d'ouverture contre les Coréennes à leur portée est donc avant tout un défi mental. Pour les Bleus, il est l'heure d'être à la hauteur des rêves qu'elles ont fait naître.
Merci Simon Rubin. On vous retrouve d'ailleurs ce soir, Simon. Vous commenterez le match en direct et en intégralité sur Europe 1 parce que Mathieu, on donne rendez-vous à nos amis. Soirée spéciale.
Oui, autour de Lionel Rousseau, prise d'antenne à 20h dans ce merveilleux studio Pierre Belmar. Oui, en public avec notre consultante Sandrine Roux. Rendez-vous 20h donc sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde.
Et puis, fin de saison chaotique pour Neymar. La star du Paris Saint-Germain a été entendue par la police à Rio de Janeiro dans une affaire de viol. Son accusatrice avait livré sa version à la télévision brésilienne quelques heures auparavant. Et enfin, vous le savez, il est à nouveau blessé à la cheville. Cette fois, il ne pourra pas jouer la Copa América avec la Seleção.
Tout autre chose maintenant. Qui veut le bureau de Laurent Wauquiez ?
Eh bien, c'est peu dire que les poids lourds ne se précipitent pas. Mais il y en a tout de même un dont le nom circule de plus en plus. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Vous avez des informations, c'est ce que j'appelle le plan J, comme Jacob, Christian Jacob, le président des députés LR, à la tête du parti, c'est possible ?
Eh bien, ce serait une solution évidente, confie des élus, car il coche pas mal de cases. Chiracien, pas d'ambition présidentielle, et il a toujours été d'une loyauté à toute épreuve, quel que soit le patron, de Copé à Sarkozy, en passant par Fillon malgré la tempête de 2017 et jusqu'à Wauquiez. Laurent Wauquiez qui l'a appelé hier, il y a besoin de toi, donc impose-toi. Christian Jacob consulte donc à tout va. Il ira au charbon s'il le faut, certifie un élu. Sa décision n'est pas prise, temporise un proche. Avant d'ajouter, s'il apparaît comme une solution d'apaisement, il prendra ses responsabilités. Alors chez LR, rien n'est jamais acquis, vous le savez. Mais à ce stade, l'option Jacob ne suscite pas de levée de bouclier.
Et si on en parle, c'est aussi parce que tous les autres ténors se défilent.
Alors, François Baroin, ami de Christian Jacob, n'a pas envie de se cogner le parti, glisse un sarkozyste. Valérie Pécresse a pris le large. Il faut dire que le job est ingrat. Gérer une maison en mal de militants et d'électeurs, tout en essayant de retenir les élus. La droite, traumatisée, rêve d'un patron qui ne pense pas qu'à la présidentielle. Une révolution pour le parti gaulliste, où tout a toujours tourné autour d'un chef obnubilé par l'élection suprême.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, merci à vous Aurélie. Cette fois c'est fait, les députés ont renoncé aux 80 km/h. L'Assemblée nationale a autorisé la possibilité de relever la vitesse sur certaines routes départementales, mais pas sur les nationales. Ce sont les présidents de conseils départementaux, mais aussi les maires, dans certains cas, qui auront le pouvoir de prendre cette décision et donc la responsabilité.
À Tahiti et Moréa, le corail est en train de mourir.
Oui, ce patrimoine naturel de la Polynésie française et du monde est la victime directe du réchauffement climatique. C'est ce que démontre une étude scientifique que nous vous révélons en exclusivité sur Europe 1. Écoutez les explications de Laetitia Edouin du Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement.
C'est un phénomène qui est spectaculaire et il s'explique simplement parce que l'eau de mer, elle a été beaucoup plus chaude que d'habitude. On a eu des températures qui étaient supérieures à 30 degrés. Dès qu'on va dépasser cette gamme de températures, le corail, en fait, il va être stressé et il va commencer à blanchir. Et un corail blanchi n'est pas un corail mort. Pour Moréa et Tahiti, on est à peu près sur 40 à 50% de colonies blanchies, mais qui sont blanchies à des stades très sévères. Et donc, on pense qu'il va y avoir quand même une forte mortalité associée à cet épisode de blanchissement.
Laetitia Edouin au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui. Quelle tristesse, ce corail qui blanchit et finit par dépérir. Dossier complet, toutes les explications et diaporama sur notre site internet europe1.fr. Et puis, c'est un nouveau scandale alimentaire. Une entreprise française a distribué 780 tonnes de faux steaks hachés à des associations d'aide aux plus démunis. Fabriqués en Pologne, ils contiennent essentiellement de la peau, du gras, du soja, mais pas de viande. Une enquête a été ouverte par la répression des fraudes.
Europe 1.
À suivre dans ce journal, qui pour succéder à Theresa May, l'eurosceptique radical Boris Johnson est favori. Nous serons à Londres dans un instant. À tout de suite.
Il est 8h. 7h07, votre matinale info, Mathieu Béliard.
La suite du journal, David Doucan et Theresa May qui quittent officiellement aujourd'hui la tête du Parti conservateur.
Absolument, elle n'est à partir de maintenant plus que première ministre par intérim. Cela ouvre la course à sa succession. Il y a 11 candidats, les députés Tories en sélectionneront deux, qui seront ensuite départagés par un vote des militants. Et les deux favoris sont Boris Johnson et Michael Gove. Présentation des forces en présence avec notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
Le 10 Downing Street l'obsède depuis des années. Bojo, surnom pour Boris Johnson, est aujourd'hui tout près du but. Seul obstacle à franchir, passer le vote de ses collègues, les élus conservateurs, pour atteindre le duo de tête. Ses allures de bouffon, ses gaffes, son dilettantisme lui valent le mépris de nombreux Tories. Mais son statut de favori attire chaque jour de nouveaux soutiens. Car l'ancien maire de Londres, figure de la campagne pour le Brexit, est le candidat préféré des 160 000 militants du parti qui départageront les deux finalistes. Ligne dure sur le Brexit séduit cet électorat âgé et eurosceptique. Il prône une sortie sans accord si Bruxelles refuse de renégocier. Son principal challenger est Michael Gove, l'actuel ministre de l'Environnement. Lui propose de repousser la sortie de l'Union européenne en 2020 si nécessaire et offre aux Européens du Royaume-Uni une procédure gratuite pour obtenir la nationalité britannique. Eurosceptique modéré, il est le candidat du compromis au sein d'un parti dangereusement déchiré par le Brexit. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
David, oui. Vous êtes un homme de parole. Vous l'aviez promis pour terminer ce journal. Vous l'aviez promis de nous parler de K-pop.
Eh oui, parce que si vous avez un ou surtout une ado à la maison, vous n'y avez sans doute pas échappé. Cette musique coréenne est un phénomène mondial, en particulier le groupe BTS. Ils sont ce soir et demain au Stade de France. Leur clip Boy With Love a été visionné 70 millions de fois. En 24 heures, les fans sont au bord de la crise d'apoplexie. Diane Chenouda l'a constaté pour Europe 1.
Ils ont entre 15 et 25 ans, une majorité de filles, dont certaines ont les cheveux bleus ou verts, comme leurs idoles. 7 garçons dans le vent, look androgyne et flashy, ils enflamment les stades avec leur K-pop acidulé, mélange de pop, rap, électro.
Ils ont une énorme richesse au niveau musical, au niveau des paroles.
Ils m'ont beaucoup aidée dans les moments où j'étais au plus bas. Qui font passer de très beaux messages comme apprendre à s'aimer, à s'accepter. J'adore la danse, donc les voir danser, c'est aussi extraordinaire. J'y vais les deux jours, je vais au concert les deux jours.
Beaucoup de fans iront en effet les voir ce soir et demain soir, malgré le prix des places, jusqu'à 600 euros en VIP, car tous veulent revivre les émotions du dernier concert de BTS en octobre à Paris.
Il y a beaucoup d'ambiance avec les fans, ils sont hyper joyeux. Et
c'est extraordinaire, vraiment.
C'était magique, ils sont merveilleux, ils font vraiment chaud, très bons danseurs, des très bons chanteurs, vraiment parfait.
Les 110 000 places pour ce soir et demain sont parties en moins de 2 heures.
Et je sens la frustration, Mathieu Béliard, après ce reportage de Diane Chenouda, puisque c'est à guichet complet, vous ne pourrez donc pas y aller ni ce soir, ni demain,
pourtant,
Mathieu.
J'avais mes lunettes de soleil parce que là, j'ai regardé le clip, c'est flashy.
Oui, c'est flashy en effet. Je vous dis un mot de Roland Garros.
Oui, s'il vous plaît.
Bah oui, parce que c'est le climax, le match au sommet, la rencontre que vous attendiez tous. Demi-finale homme, 12h50, cour centrale, l'Espagnol Rafael Nadal contre le Suisse Roger Federer.
Et tout le monde a mouillé le maillot, tout le monde s'est engagé depuis 7h, David Doucan, plutôt Nadal ou Federer?
Ah mais moi c'est Nadal.
Ah voilà,
Mathieu, mon cœur penche pour Federer, mais je suis réaliste.
Ah c'est un pronostic.
Un pronostic que je vous donne.
J'aime Raphaël Nadal, Vincent Hervouet.
C'est raffiné. Hein,
je vous posais la même question.
Moi je joue pour Connors.
Ah non, c'est raffiné. Non.
Dites-le nous, tiens, sur le hashtag Europe 1, Raphaël Nadal ou Roger Federer, ou même au 39-21, on prendra le temps de vous écouter, c'est quand même le choc tant attendu de ce tournoi de Roland-Garros dont nous sommes la radio officielle. Merci David Doucan.
La matinale d'Europe 1.
Mathieu Béliard.
Il est 8h11, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet qui nous a rejoint, Mathieu.
C'est tout autre chose, Vincent, oui. Évidemment. Vladimir Poutine n'était pas invité à commémorer le débarquement, mais il ne s'est pas laissé oublier.
Oui, il a prétendu qu'il n'était pas utile de l'inviter partout, qu'il avait mieux à faire, qu'il n'était pas un général d'opérette. Alors c'est vrai, il est colonel du KGB, et s'il avait été invité, il aurait d'ailleurs été le seul officier parmi tous ses dirigeants au garde-à-vous, le seul vétéran aussi, il a fait la guerre froide, il l'a perdu et il ne l'oublie jamais. Alors à qui pensait-il en parlant de général d'opérette? À Donald Trump qui se flatte d'avoir échappé au Vietnam? À Emmanuel Macron qui n'a pas fait son service? Au pacifiste Justin Trudeau pour toujours dans le camp des gentils? Ou à Angela Merkel qui a encore diminué les crédits de la défense? En tout cas, Poutine est un bon judoka. Il répond par le mépris à l'humiliation. Et puisqu'on le tient en quarantaine, il s'affiche avec le nouvel empereur de Chine en allant au Bolchoï avec Xi Jinping, en ouvrant avec lui le forum des investisseurs à Saint-Pétersbourg, en signant de nouveaux contrats. Le Russe tourne le dos aux Européens. Ils ont snobé avec le Chinois la réunion des anciens combattants qui parlaient du passé. Eux prétendent s'occuper du présent et de l'avenir.
Et l'avenir est inquiétant, forcément.
Vladimir Poutine a menacé hier de laisser tomber le traité sur le contrôle des armements stratégiques, le fameux traité START, qui a contenu les arsenaux nucléaires pendant la guerre froide. Il expire dans 2 ans, et s'il n'est pas renégocié, eh bien il va finir comme le traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire, que les Russes et les Américains ont laissé dépérir cet hiver en s'accusant mutuellement de l'avoir violé. Alors, Vladimir Poutine prétend que sans ce traité START, il n'y aura plus de limite à la militarisation de l'espace et que bientôt des armes nucléaires seront suspendues au-dessus de nos têtes. Pour gâcher la fête, Vladimir Poutine, il est parfait. Les Alliés ont repeint en bleu, blanc, rouge la bataille contre les nazis parce que les drapeaux américains, britanniques, français sont tous les trois tricolores et ils ont oublié au passage les 27 millions de morts soviétiques. Eh bien, en retour, Poutine explique que la prochaine guerre sera bien pire, qu'il y pense et qu'il s'y prépare. En 2014, il avait été invité en Normandie. Il venait pourtant d'annexer la Crimée. Ça avait donné l'occasion à François Hollande et Angela Merkel de parrainer un accord de cessez-le-feu entre le Russe et l'Ukrainien Porochenko. Les fameux accords de Minsk, c'était de la bonne diplomatie, la meilleure d'ailleurs de François Hollande. Avec l'élection d'un nouveau président ukrainien, les Européens avaient l'occasion de relancer ce dialogue qui s'est enlisé. Mais en mettant Poutine au piqué, l'Europe s'est mise hors jeu. C'est un peu miteux et c'est dangereux.
Merci beaucoup Vincent Hervouet pour l'édito international.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Restez avec nous dans 2 minutes, l'interview politique d'Europe 1 avec vous, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Audrey.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Votre invité.
Eh bien, il est président de la région Normandie, là où ont été célébrées les cérémonies du débarquement. Il est aussi centriste, jusque-là allié aux Républicains, mais le sauf qui peut continue. Après Valérie Pécresse, une quarantaine de maires de droite et du centre lancent un appel à soutenir Emmanuel Macron. Et lui, Hervé Morin, président de l'Association des régions de France, on lui posera la question, sera mon invité.
A tout de suite Audrey.
Un bon réveil à tous sur Europe 1, il est 8h14. Il est 8h17, Mathieu Béliard.
Le président de la région Normandie et de l'Association des régions de France, Hervé Morin, et votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Hervé Morin.
Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Les images du 75e anniversaire du débarquement ont été diffusées dans le monde entier. Ouais. C'est une formidable publicité pour le tourisme dans votre région.
Vous savez, on dit que la Normandie est la deuxième région la plus connue au monde après la Californie, et on le doit notamment, bien entendu, à l'histoire tragique qui a été la nôtre. C'est un tourisme qui se développe beaucoup. On a 5 millions de visiteurs par an qui viennent sur les plages du débarquement. Du monde entier, on vient sur les plages du débarquement, et pas simplement les anglo-saxons. Et donc, on a toute une politique de développement mémoriel, et on a ce dossier qui malheureusement a été arrêté par l'UNESCO, qui est le classement des plages du débarquement au patrimoine mondial, qui serait le premier lieu de guerre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Hervé Morin, Valérie Pécresse, qui était déjà marginalisée au sein des Républicains, c'est un constat, a bien fait de quitter le parti pour mettre les choses au clair.
Écoutez, ça c'est il y a deux choses différentes dans cette histoire. Il y a pour nous, l'impérieuse obligation de se retrouver tous autour de la table. C'est ce que je souhaitais, quel que soit le résultat des élections européennes, que Gérard Larcher, compte tenu de ses fonctions, soit en capacité de remettre autour de la table des gens qui ne se parlent plus depuis des années. Bien. Après, dans ces personnes, il y a des gens qui sont républicains, puis d'autres qui ne le sont pas, comme moi. L'essentiel, c'est qu'on soit autour de la table, et pour cela, Valérie continue à dire, je vais participer à la refondation de notre projet politique. Non mais,
Est-ce qu'elle a bien fait de quitter le parti?
Mais c'est deux choses différentes. Bon, ça, c'est son problème, c'est pas le mien.
Non, mais vous avez bien un avis là-dessus. Est-ce qu'elle a bien fait de quitter le parti?
Mais je vous assure que c'est pas le débat.
Vous n'avez pas d'avis sur la question?
Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas parce que je veux pas répondre à votre question.
Un peu quand même.
Non, je vous assure que non. Le débat, il est simple. Il est d'abord une question profonde, démocratique. Alors, pour nos compatriotes, ils se disent, c'est encore des histoires de partis politiques. C'est plus lourd que ça. Emmanuel Macron a enfermé le débat démocratique dans moi ou le Rassemblement National. Ça, ça a été surjoué durant toute l'élection européenne.
Les chefs des partis de droite et de gauche l'ont un peu aidé quand même.
D'accord, peut-être, mais c'est quand même ça. Au bout du compte, si en 2022, les Français disent nous voulons nous débarrasser d'Emmanuel Macron, le seul choix, ça doit être le Rassemblement National pour les Français. Donc pour nous, on a une ardente obligation qui est celle d'être en capacité d'incarner une alternative. Pour incarner cette alternative, il faut aussi qu'on soit en capacité de rebâtir et de refonder un projet. D'où le fait que nous allons faire des conventions régionales. Nous avons été, nous, droite et centre-droit, écolo, le Grenelle de l'environnement, voté à l'unanimité du Parlement en 2008. C'est un gouvernement qui était celui de Nicolas Sarkozy.
François-Xavier Bellamy est la seule à ne pas avoir parlé d'écologie pendant toute sa campagne.
Si elle en a parlé, mais bon, moi j'ai fait les meetings, donc je peux vous dire.
Si on peut revenir à Valérie Pécresse, excusez-moi, mais Valérie Pécresse, elle, parce qu'elle publie notamment une interview, elle accorde une interview ce matin, elle dit « je veux sauver la droite ». Est-ce qu'elle en a les capacités selon vous ?
Ça, on verra bien. La question du candidat à l'élection présidentielle, c'est pas demain matin. On a d'abord les municipales. Ces municipales nous permettront de démontrer que les élections européennes n'ont jamais configuré le paysage politique français. Je rappelle qu'en plus, si on veut bien se souvenir, Europe Écologie Les Verts, à deux reprises, ont fait des très gros scores aux européennes. Ils ont fait 2% aux élections suivantes. Mais en même temps, il est évident que la préoccupation environnementale est une préoccupation extrêmement forte et puissante, notamment chez les jeunes générations. Et ils ont raison.
C'était la priorité d'Emmanuel Macron pendant les européennes. Priorité numéro un à l'écologie.
Où Nicolas Sarkozy était heureux que nous ayons largement gagné les élections européennes. L'année d'après, on a pris une raclée au régional. Moi, ce que je sais, c'est que quand on prend les sondages qui sont réalisés par les maires sortants républicains au centre droit dans leur ville, ils font tous de très bons scores. Et En Marche fait moins de 10. Bon, tout n'a pas été... Enfin, je veux dire, il faut sortir du temps court. Il y a 3 mois, on se demandait si Emmanuel Macron n'allait pas être obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on expliquerait que tout d'un coup, le paysage politique se résume à En Marche, point à la ligne.
Il y a une crise
donc,
à droite,
je dis qu'il y a une crise à droite et au centre droit.
Pour l'instant,
et qu'il
vous
nous
êtes...
appartient d'y répondre par un projet politique dans lequel on affirme des choses simples. On a besoin, par exemple, d'un pouvoir qui soit le plus proche de nos compatriotes. D'où la nécessité de décentraliser en profondeur l'exercice du pouvoir.
C'est ce que veut Emmanuel Macron aussi. Qu'est-ce qui vous retient de le soutenir, de le rallier aujourd'hui ?
J'ai, à l'égard du chef de l'État, avec le chef de l'État, j'ai eu plusieurs conversations. À chaque fois, je lui dis la même chose. Moi, j'ai envie que la France réussisse. Je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'un jour, la France devienne l'Italie avec Salvini ou l'équivalent au pouvoir. La seule chose, c'est que jusqu'alors, sur ces sujets-là, nous avons été en permanence cocus. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on a eu un discours, je vous rappelle, puisque vous lisez...
Il appelle aujourd'hui un acte de décentralisation.
Il a écrit un livre qui s'appelle « Révolution ». Je l'ai relu sur les plages l'été dernier. Tout ne peut plus se décider à Bercy. Tout ne peut pas se décider à l'Élysée. Il faut décentraliser les pouvoirs. Il faut faire comme font tous les pays européens.
Il appelle à cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous retient de le rejoindre ?
Pendant 2 ans, on a exactement le contraire.
Et aujourd'hui ? Il y a une quarantaine de maires, par exemple, Hervé Morin, une quarantaine de maires de la droite et du centre qui appellent à soutenir Emmanuel Macron. Ils considèrent que sa réussite sera aussi la réussite de la France. Vous ne souhaitez pas la réussite du président ?
Mais attendez, vous croyez que j'ai envie que ma région ne réussisse pas ?
En fait, je ne comprends pas pourquoi vous ne rejoignez pas Emmanuel Macron, vous qui êtes centriste. On voit aujourd'hui que le centre vogue un peu entre Emmanuel Macron, ce qui reste de la droite. Qui vous retient au fond ?
Écoutez, je suis profondément décentralisateur.
Vous ne croyez pas en la volonté d'Emmanuel Macron aujourd'hui de s'appuyer davantage sur les territoires ?
Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, puisqu'on a quelques mois pour construire l'exercice. Je suis pour un pays qui ne vit pas au-dessus de ses moyens et qui ne laisse pas filer le déficit. Je vous rappelle que pendant plusieurs mois, la majorité a mis lourd sur la table. On est tout de même le pays, aujourd'hui, avec les déficits les plus élevés d'Europe, plus que l'Italie. On a un endettement qui repart de plus belle. Je suis pour un pays dans lequel tous les pouvoirs ne sont pas concentrés dans les mains d'un homme avec une évolution institutionnelle majeure. Bon, il y a des sujets. Il n'y a pas simplement l'écume des choses.
Hervé Morin, avec Gérard Larcher, donc vous cherchez à créer pour l'instant une coalition de droite et du centre. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui c'est Emmanuel Macron qui incarne cette droite et centre? Par exemple, à Matignon, on le sait tous, à Matignon, Édouard Philippe, à Bercy, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, que vous aviez soutenu pendant la présidentielle, au territoire, Sébastien Lecornu, le Normand comme vous. Une belle équipe de droite, qu'est-ce qui vous retient de les rejoindre?
Ce que je vous ai dit, je dis très clairement que... Il y a toute une série d'équations sur lesquelles on est aujourd'hui en attente de solutions. L'équilibre des comptes publics, la baisse réelle des prélèvements obligatoires qui ont atteint des sommets, la question claire de la réforme de la formation. Est-ce qu'on va enfin mettre en place un système en France où on cesse d'avoir une multitude d'acteurs qui empêchent le pays de pouvoir répondre à une équation simple? D'un côté, chômage de masse, et de l'autre, entreprise qui recherche des formations et des compétences tous les matins. Je suis dans une région, Audrey Crespo-Mara, où il y a 21 000 emplois industriels non pourvus. Je dis au président de la République depuis un an et demi, donnez-nous les clés pour conduire la politique de l'emploi et de la formation pour qu'on sorte le pays de cet abîme-là dans lequel on est à laquelle on est incapable de répondre. Voilà des vrais sujets sur lesquels j'attends des réponses.
Bon, on attend les réponses. Merci, Hervé Morin.
Juste une question, vous êtes plutôt Nadal ou Federer, Hervé Morin?
Écoutez, je joue...
Qui vous répondra peut-être davantage.
Je joue au tennis et je préfère le jeu de Federer au jeu de Nadal.
Ah bah voyez, voilà, c'est plus clair, Team Federer.
Vous aussi, Team Federer, voilà. Vous nous le dites sur le hashtag Europe 1 au 3921. Merci Audrey Crespo-Mara, l'interview politique de la matinale. À dimanche dès 10h, Nadine Morano, eurodéputée Les Républicains, sera l'invitée du grand rendez-vous européen.
Et j'en profite pour dire aux Français, s'ils ne connaissent pas encore le foot féminin, allez voir.
Oui.
Moi qui suis passionné de foot, je suis allé voir un match de l'équipe de France. Les femmes, elles jouent formidablement bien. Il n'y a pas de chiquet, pas de cinéma, il y a plus de jeux. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
À suivre, Mathieu.
La météo de Laurent Cabrol, la revue de presse de Mathieu Charrier, le journal de Roland Garros avec Corinne Boulou. Vous restez bien sur Europe 1, à tout de suite.
Avec Mathieu Béliard, il est 8h27. La météo maintenant avec Laurent Cabrol, Mathieu.
Alors Roland Garros cet après-midi, France-Corée du Sud ce soir. Quel temps pour les sportifs, Laurent?
Ah non, pas cette question.
Ah bah si,
j'en veux pas y répondre.
Il n'y a rien de plus difficile. Écoutez, parce que pour l'instant, bon, nous aurons que des petites pluies dans la journée avec des ondées, avec quelques rayons de soleil, donc Roland Garros pourrait être sauvé. Pour ce soir, c'est plus délicat parce que la zone orageuse arrivera précisément en soirée, en début de nuit sur Paris. Et donc, bah, vous savez, on pense qu'elle va contourner le Parc des Princes, tout simplement. Hein, et puis voilà. Mais c'est vraiment là, quitte ou double ou pile ou face, comme vous voulez. Mais enfin, c'est très très délicat. Pour l'heure, les régions épargnées, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence, Côte d'Azur et Corse seront sous le soleil toute la journée, mais c'est ce soir que les orages arriveront, comme sur Paris, et vous aurez dans ces contrées des orages parfois violents, parce qu'il aura fait chaud dans la journée, autour de 27 à 30 degrés dans toutes ces contrées de l'Est. Alors que à l'Ouest, c'est la tempête, elle est là, 100, 110 km/h pour l'instant, peut-être 120 dans le courant de la matinée, puisque c'est à présent que les vents sont les plus violents, et cette tempête pénètre dans les terres et va traverser quasiment toute la France, mais demain on en sera débarrassé, promis.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Nous sommes le vendredi 7 juin, il est 7h30. 8h30 et c'est l'heure de la revue de presse avec Mathieu Charrier. Mathieu,
bonjour Béliard. Mathieu.
Bonjour à tous.
À la une des journaux ce matin, Mathieu, des visages de femmes qui pourraient embraser tout un pays.
Eh oui, Sarah Boisdi, Solène Durand, Pauline Perromagna, elles sont 23, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais elles sont 23 footballeuses à s'afficher en une de vos journaux. Et à partir à la conquête du monde, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Taper dans le ballon, courir, marquer un but, laisser exploser sa joie, Claude Soiffy ou garçon, les gestes sont similaires, les émotions identiques, écrit Frédéric Vézard. Et c'est vrai que l'on sent qu'un an après le couronnement des Bleus sans eux, c'est tout un pays qui a envie de revivre ses émotions, de se retrouver derrière Amandine Henry, la capitaine et toute son équipe. Henry, un nom au doux parfum de France 98.
Mais derrière l'enjeu sportif, il y a surtout un enjeu de société.
Et les Bleus s'avancent avec l'envie de l'emporter sportivement, mais aussi de faire progresser symboliquement l'égalité homme-femme, écrit l'Humanité. Il faut souhaiter la victoire de l'équipe de France par patriotisme sportif, un peu, mais par féminisme surtout, renchérit Laurent Geoffrin dans son édito. Car en France, les femmes gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes pour un même poste dans le foot. C'est pire, le salaire moyen d'une joueuse de Ligue 1 est de 2 500 euros. plus de 100 000 euros pour un homme, note la Provence. Et si elle ramène la coupe à la maison, nos Bleus auront droit à une prime. 40 000 euros, 10% de celle versée aux joueurs de Didier Deschamps. Mais les femmes touchent au but, veut croire Libération. D'ailleurs, nombreux sont vos journaux ce matin à expliquer que dans chaque département, le nombre de footballeuses augmente. Un vrai phénomène pour Presse Océan. La barre des 100 000 licenciés a même été dépassée il y a 3 ans. Objectif à Presse Mondiale, 250 000, peut-on lire dans la Dépêche du Midi. C'est l'heure de gloire du football féminin pour le Figaro. D'ailleurs, longtemps cantonné aux chaînes de la TNT, les Bleus auront droit pendant tout ce mondial à une diffusion sur TF1 qui espère 15 millions d'euros de recettes et embauche son duo de commentateurs stars avec notamment Bixente Lizarazu qui reconnaît avoir revu tous les matchs des Bleus depuis un an pour se préparer. Il connaît toutes nos footballeuses car c'est bien comme ça que l'on dit. L'équipe se fend même d'un papier pour expliquer qu'il y a eu de nombreuses et houleuses réunions au sein de la rédaction du quotidien sportif pour décider du lexique. C'est tranché, les noms en « heure » sont transformés en « euse », « défenseuse », « buteuse », etc. « Je crois qu'on en fait trop pour le foot féminin », ça ce sont les paroles du personnage de Rançon dans son dessin du Parisien. Il réagit à l'injonction de sa femme vautrée dans le canapé devant le match à la télé et qui lui dit « Chérie, va me chercher une bière ».
Certainement le genre de supporter qui disait « foot ballerine » dans les années 70, j'ai entendu ça. Les femmes à la une de l'actualité politique de vos journaux également ce matin, Mathieu.
Oui, à commencer par Valérie Pécresse, hein, désormais libre mais un peu seule selon le Parisien. La présidente de la région Île-de-France a quitté les Républicains mercredi. Certains voient dans son geste la volonté de se rendre disponible pour succéder à Édouard Philippe, écrit Libération. Mais en démissionnant, Valérie Pécresse fait un pari incertain pour la Croix. Tout le monde n'est pas Macron. Valérie Pécresse qui explique dans le Figaro vouloir tout simplement sauver la droite. Reste que la bataille pour la tête du parti Les Républicains se joue désormais entre hommes. Guillaume Pelletier, Éric Woerth, son candidat, François Baroin et Laurent Wauquiez poussent plutôt. Christian Jacob croit savoir l'opinion.
Alors que chez les Insoumis, ce sont deux femmes qui mènent la fronde contre Jean-Luc Mélenchon.
Clémentine Autain et Charlotte Girard qui n'hésitent plus à afficher leur divergence avec le leader de la France Insoumise. Charlotte Girard se plaint d'un manque de démocratie au sein du mouvement, explique Libération. Clémentine Autain, elle, appelle à un Big Bang de la gauche.
Et puis enfin, c'est encore une femme qui domine l'actualité musicale en ce moment et qui donne des cours de féminisme.
Angèle qui remplit les Zéniths et arrive ce soir à Paris. Elle réenchante le féminisme, écrit le Parisien. Un féminisme qui n'est pas plaintif, mais gay, actif. 300 000 albums vendus et surtout un formidable clip, celui de Balance ton quoi, dans lequel Angèle donne un cours d'antisexisme, notamment à Pierre Ninet. Clip qui dépasse ce matin les 24 millions de vues.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter.
Angèle, balance ton quoi. Merci Mathieu Charrier pour la revue de presse 8h35.
Mais c'est l'heure, Mathieu, du journal de Roland-Garros. Europe 1 est la radio officielle de tournoi, je vous le rappelle. Le journal de Roland-Garros, comme chaque matin avec Corinne Boulou.
Europe 1, le journal de Roland-Garros.
Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un carré de reines et de rois aujourd'hui à Roland-Garros.
Oui, avec une programmation un peu spéciale hein, d'ailleurs, puisqu'à partir de 11h, les demi-finales dames seront réparties entre le cours Suzanne Lenglen pour l'affrontement entre l'américaine de 17 ans Amanda Anisimova et l'australienne Ashleigh Barty, et le cours Simone Mathieu pour l'opposition entre la britannique Johanna Konta et la tchèque Vondrousova, des demi-finales dames en accès libre donc pour le public détenteur de billets pour les cours annexes. Et c'est une certitude, à l'issue de la finale, nous aurons une nouvelle reine qui n'a jamais gagné un tournoi de Grand Chelem, Mathieu.
Et donc un carré d'as dans le tableau, messieurs, avec les 4 meilleurs mondiaux au rendez-vous.
Oui, le numéro 1 mondial Novak Djokovic sera opposé à l'Autrichien Dominic Thiem, 4e mondial et finaliste l'an passé. Et il y aura bien évidemment du spectacle. Mais avant cela, il y aura cette demi-finale qui fait rêver tous les amateurs de tennis, dont fait partie le champion olympique Tony Estanguet, patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024.
Oh là là, c'est magique, ça fait rêver. D'un côté, Federer qui, moi, a été vraiment l'un de mes premières idoles. Voilà, j'adorais cet athlète, l'humilité, la classe. Enfin, je suis fan, voilà, depuis la première heure de Federer. Et puis d'un autre, voilà, Rafa, qui ici, on voit pas trop comment on peut l'inquiéter. J'ai l'impression qu'il va aller au bout une fois de plus. Et ce serait génial quand même. Voilà, j'espère qu'il y aura un vrai match et que ça va être chouette.
Et Roland Garros qui accueillera en 2024 avec un toit les épreuves olympiques de tennis et de boxe.
Le chiffre du jour, Corinne, 37 ou 38 ?
Allez, 37 pour le nombre de tournois du Grand Chelem que Nadal et Federer collectionnent à eux deux, dont 12 ici à Roland Garros. Et 38 pour le nombre de confrontations entre ces deux-là avec Nadal qui en a gagné 23. Alors que peut-on attendre de ce 39e choc ? Est-ce que nous attendons trop de ce duel ou pas ? Réponse de notre consultant Cédric Pioline.
La problématique est toujours la même au fur et à mesure des années pour Federer, qui pratique un jeu encore plus offensif qu'il y a quelques années, où il va falloir qu'il fasse beaucoup de points et peu de fautes. Et je dois dire qu'avec la couverture de terrain que Nadal a en ce moment, ça va être très compliqué pour le Suisse. En tout cas, il faudra qu'il démarre bien le match. Prendre le premier set, ne pas courir après le score. Sinon, je dirais que c'est quasiment mission impossible pour lui. Par contre, s'il arrive à faire ça, peut-être qu'à un moment, il peut y avoir un peu de doute qui s'installe chez l'Espagnol et que là, on va rentrer dans un match totalement différent.
Et la direction du tournoi croise les doigts maintenant pour la pluie annoncée dans la journée, enfin, afin que la pluie, pardon, annoncée dans la journée ne gâche pas trop la fête.
Des matchs à suivre à partir de 11h, toutes les demi-heures sur Europe 1, radio officielle du tournoi, et à 19h40, service Pioline pour faire le bilan de ces quarts de finale avec notre consultant Cédric Pioline, avec vous Corinne Boulou, à 19h40. Et puis à 20h, vous serez avec Lionel Rosso pour suivre les filles du foot, la Coupe du Monde féminine de football. Quelle journée de sport. On a Cyril au 39-21 avec nous. Il est dans la Manche. Bonsoir. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu.
Soyez le bienvenu ce matin. Vous allez supporter les Bleus avec eux à la fin.
Bien sûr, malgré le fait que je ne sois pas très connaisseur de football féminin, je l'admets, puisque je n'ai pas l'occasion, et ils sont un peu moins diffusés que les garçons, donc j'ai moins l'occasion de les regarder. Donc ça va être justement l'occasion de pouvoir m'y intéresser un peu plus près. Et puis voilà, ouais, c'est un petit peu le... Ben voilà, on a envie de suivre cette Coupe du Monde et espérer qu'elles aillent le plus loin possible.
Eh bien, surtout n'hésitez pas, Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde féminine de football. Vous pourrez suivre cette soirée spéciale à partir de 20h en public au studio Pierre Belmar, 8h39. Merci beaucoup de votre appel, Cyril.
Allez les Bleus
au 39-21.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Attention, il arrive dans une minute, l'incontournable Nicolas Canteloup et sa revue de presse. À tout de suite.
Il est 8h39. Il est 8h42.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous les attendiez. Ils sont là, Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on va retrouver, tiens, Nikos, il est en ligne avec nous pour le titre principal de l'actu.
Ouais.
On va s'empêcher d'être là, hein.
Ouais, Nikos. Non, salut à tous. Écoutez, non, je vous écoute. Salut les amis. Salut aux confrères. Salut Mathieu Béliard. Voilà, c'est ça.
Ah là là.
Écoutez, pour tout vous dire, je suis avec Pierre de Villeneuve. Et on écoute la matinale de Mathieu Béliard. Et ouais, bon, écoutez, voilà, oui, bon. Bof. C'est sympa, mais c'est pas top.
On débriefera,
ouais, c'est ça.
Plus c'est assez paresseux comme matinage, je trouve. Il fait tout avec une seule question. Alors Nadal, Federer ou Nadal, Federer. Ça emmerde pas, franchement. Bon, enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Les auditeurs n'ont pas à savoir, mais... des opinions. Et puis le titre de l'actu, c'est bien sûr la tempête Miguel. Laurent Cabrol nous en a parlé.
Je vais vous dire deux mots. Hein. La tempête Miguel arrive en fait au mois de juin. Elle a un nom qui sent le soleil, la paella, la tequila, la salsa, alors qu'elle a juste nous trempé la gueule comme au mois de décembre. Voilà. C'était mon regard sur la tempête Miguel ce matin. Voilà Julie, c'est tout, pas mieux.
C'est bien foulé là. Merci Laurent, merci Nico, à bientôt tous les deux.
Ouais.
C'est un échec pour l'économie française. Le constructeur italien Fiat a refusé une alliance avec Renault. Nos micros avaient suivi Bruno Le Maire pendant les négociations. On va écouter ce document.
Bien, messieurs, approchez-vous. Messieurs, merci en tout cas d'être venus depuis votre beau pays qu'est l'Italie, jusque dans cette usine Renault. Bienvenue, donc c'est ici que vous le voyez, nous fabriquons les voitures qui, je le souhaite et qui, j'en suis sûr, seront demain les voitures, messieurs, les plus vendues dans le monde grâce à notre alliance franco-italienne. Oui.
Ce serait un honneur, monsieur le ministre, pour nous de nous associer avec vous à cette belle aventure.
Merci, monsieur. Écoutez, grâce à l'argent, tout ça, en tout cas, que vous apporterez, nous allons faire de ces voitures, j'en suis certain, un fleuron international, soyez-en certains. Regardez cette voiture, regardez ces courbes, ces lignes. Ça, c'est un design, hein, on en est d'accord, racé. Ça va plaire au monde entier, ce design qui va...
Là, c'est la voiture, celle-là?
Oui.
Non, parce que c'est tout vilain, là. C'est pas Pininfarina qui a dessiné la... C'est quoi? C'est un enfant qui a dessiné. C'est votre fils ou que... C'est quoi la marque?
Twingo.
Twigo, Twigo, ouais. C'est-à-dire que nous, Twigo, c'est pas un nom qui... Nous, c'est plus Ferrari, Maserati, Lamborghini, ça sonne, mais Twigo, Twigo. Ouais. Non, écoutez, on va... Si vous permettez, on va refaire le design parce que c'est pas très chic. Mais avant tout, il n'y a pas que ça, la carrosserie, les performances, c'est...
Alors, attendez, je vais écouter de ce pas, vous montrer la qualité de nos voitures... Elle est un peu froide parce que je la prends à froid. Je... Attendez.
Oh, allez.
Paquito, vous pouvez brancher les cosses. Oui, alors là, vous n'entendez pas le moteur ronronner, mais lorsqu'il ronronne, c'est un bonheur. Alors, une fois que le moteur est allumé, je peux vous dire qu'elle fonce à une vitesse. Elle peut... Non, non.
Eh bien, non, mais attendez. Non,
non, non, mais permettez-moi, elle passe du 0 au 100 en même pas 12 minutes. Attendez. Non, mais monsieur va... Non, mais...
Non, non, s'il vous plaît. Non,
non, non mais monsieur, ne partez pas. Ne voulez pas nous racheter. Nous avons une usine à Belfort à vendre. Ne voulez pas.
Non, non, non. Non,
bon. Allez. Bon, mais plan social chez Renault en septembre, ok, on va y couper. Allez.
Eh ben, c'est un échec. Bon courage, Bruno Le Maire. Hein. Yannick Jadot, la nouvelle star des écologistes, a de hautes ambitions pour les municipales de 2020. Il déclare vouloir remporter des villes comme Nantes, Rennes ou même Paris. Bonjour Anne Hidalgo.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les Parisiens, toutes les Parisiennes. Bienvenue à Monsieur Meillard. Écoutez, j'aime beaucoup Yannick Jadot, mais disons-le, il faut qu'il se calme, Yannick Jadot. Hein, en plus, ce n'est même pas utile, dit-il, d'élire... Enfin, moi, je vous dis, ce n'est pas utile d'élire un maire écologiste puisque je suis déjà une maire écologiste. Regardez comme la faune, mais si, ouvrez les yeux, la faune revit depuis mon mandat à Paris. Il y a quand même 12 rats par habitant.
Oh, non, bravo, quel bilan, mais c'est magnifique, super.
Mais je peux dire mieux, 12 rats et 14 souris.
Oui,
nous
bien
avons
sûr.
Fait, si, nous avons fait récemment un recensement. Donc ça fait 26 rongeurs par habitant.
Oui.
C'est unique dans une capitale mondiale. Bon courage pour faire mieux, monsieur l'écolo Yannick Jadot.
Alors, plus sérieusement, vous avez pris une autre décision qui va plaire aux écologistes. Vous voulez des Jeux Olympiques neutres en carbone en 2024. Résultat, le groupe Total ne sera pas sponsor.
Non, ne sera pas sponsor parce qu'il faut faire des économies d'énergie, nous le savons. Et en même temps, il faut améliorer le spectacle sportif. Par exemple, mais arrêtez de rire bêtement dans ce studio.
Il y a de quoi,
permettez...
non.
Mais non, écoutez, ce sont des choses sérieuses, l'environnement.
Alors, on vous écoute.
Et le sport. Par exemple, j'ai décidé que les piscines pour les Jeux Olympiques ne seront pas chauffées. Dès que les athlètes plongeront dans l'eau à 5 degrés, je peux vous dire qu'ils vont en sortir beaucoup plus vite. Ils vont exploser les records de natation. Et en même temps, protéger l'environnement.
C'est ça, dis donc. Vous avez interdit aussi le stationnement des trottinettes sur les trottoirs, hein, ça y est.
Mais bien sûr, parce que sinon, si on commence à stationner les trottinettes sur les trottoirs, il n'y aura plus de place pour les mégots, plus de place pour les crottes de chiens. Comment va-t-on faire ?
Dis donc. Allez, merci Anne Hidalgo. Bon courage à vous aussi.
Oui, hein.
Tiens, toujours au sujet des municipales à Paris, Marcel Campion, et vous le savez, candidat, le roi des forains, a d'ailleurs noué une amitié surprenante avec Alexandre Benalla, qui l'a conseillé pour la sécurité de la Foire du Trône. Bonjour Marcel Campion.
Ouais, ouais, salut. Oui, pardon, non.
Quoi?
Pas salut, non. Je dis bonjour, pardon, parce que encore dire que je suis mal élevé avec les gonzesses, parce que non, mais on le sait, les bonnes femmes, elles se vexent de tout. Donc bonjour, madame Julie, voilà.
Merci. Très bien.
On risque rien. Voilà.
Bon, ça va. Alors, monsieur Campion, pourquoi vous avez choisi Alexandre Benalla?
Bah, parce que je trouve compétent. Hein, excusez-moi. Des fois, la foire du trône, on a n'importe quelle foire. On a des gamins qui renversent la barbe à papa dans le train fantôme. Vous avez un gars comme Benalla, hop, un coup de taser aux gamins.
Oh là là.
Hein, le problème est résolu. Hein, les gosses, je peux vous dire, font attention.
D'accord.
On renverse pas la barbe à papa dans le train fantôme.
On a bien compris.
Et puis pareil pour avec les gitans qui piquent les câbles. Moi, j'ai un cyclotron Power 4000. C'est mon meilleur manège. Hein, ils nous piquent les câbles, les gitans du cyclotron. Hein? Bah, ouais, attendez, non, mais c'est un super manège. Pousser à fond, ça te fait gerber une mère de famille en moins de 9 secondes. Hein? Bon, bah, j'ai des Romano qui piquent le cuivre dessus.
Ils piquent le cuivre dessus.
Bah, mais si vous avez un gars comme Benalla, il leur ferait un coup de tonfa dans les tibias et c'est réglé. Hein? Ciao les Slovaques.
Eh ben, dis donc, vous vous êtes bien trouvés tous les deux, on dirait. Hein?
Bon, bah, écoutez, oui, puis on va pas se mentir, il y a aussi un problème économique. C'est une bonne affaire, Benalla. Sur le marché, pas si cher que ça. Hein, puis il a quand même protégé monsieur le président de la République. Hein, il peut bien protéger donc du coup un stand de churros et des dauphins en peluche.
Bon allez, on va terminer avec Jean-Jacques Bourdin. Tiens, puisque le mondial de foot féminin a commencé, bah, c'est l'occasion d'aller faire un tour sur l'autre radio. On y va.
Hey, bonjour. Bonjour tout d'abord à mon poulain. Hey, Mathieu Béliard, tu n'as pas intérêt à rire sur cette séquence, Mathieu. C'est moi qui l'ai formé.
Jean-Jacques.
Salut, non, mon Mathieu. Je t'aime encore, assure-toi. Hey, c'est Jean-Jacques Bourdin, vous l'avez compris. Bienvenue sur RMC. RMC, Radio, Meuf et Coupe du Monde. Voilà, aujourd'hui, rendons un hommage mérité à celles qui sont parfois injustement, disons-le injustement, décriées. Les bonnes femmes.
Oh là, c'est parti.
Oui, disons-le aujourd'hui à cette antenne, nous les aimons, nos bonnes femmes, qu'elles soient au foyer, qu'elles soient secrétaires ou qu'elles essayent de jouer au foot. Voilà. Donc ce matin, soyons un peu féministes. Et pour célébrer la femme, nos auditeurs sont là, notamment, je prends ma fiche. Merci Christine. Et je vous félicite, Christine, pour une fois, c'est bien écrit. Bon, bref. Alors, donc c'est René qui est avec nous. Bonjour, René.
Ouais, c'est Jean-Jacques. Ben, tu vois, moi, je ne suis pas tout à fait de ton avis, Jean-Jacques. Moi, la Coupe du Monde de femelles, je suis... ouais, parce qu'ils ont commencé à dire c'est la Coupe féminine du foot, la Coupe... rien à parler, la Coupe du Monde de femelles, tout le monde comprend. Moi, je suis un peu sceptique, tu vois, parce que les gonzesses, franchement, elles ne savent pas jouer, Jacques. Elles vont pas au contact, elles simulent les pénalties. Moi, franchement... Je vois pas l'intérêt de mettre ça sur TF1, quoi. Franchement, une femme qui simule, moi j'en ai déjà une à la maison. Hein.
Je vois pas l'intérêt de mettre ça sur TF1. Une femme qui simule, j'en ai déjà une à la maison. Mais parlons, cher René, parlons, s'il vous plaît, pour recentrer le débat. Parlons du sport en lui-même, René. Vous ne pensez pas que les femmes peuvent gagner ?
Ouais. Eh ben non, hein, ça fait des années qu'on nous rabâche que les femmes elles gagnent moins que les hommes. C'est pas pendant le mondial des gonzesses que ça a changé. Hein.
Les femmes elles gagnent moins que les hommes, c'est pas pendant le mondial que ça a changé. Alors, René, en fait, ce que vous réclamez, quelque part, c'est une forme de parité. Et quelque part, je crois que c'est une belle leçon de féminisme, pardonnez-moi, que vous venez de nous donner. Donc je dis, allez les bleus, à vous Julie, allez mon Mathieu.
Jean-Jacques Bourdin et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.
Bravo et allez les bleus, on va rester sur allez les bleus. Merci allez Julie, bleus merci Nicolas Canteloup, il est 8h54 sur Europe 1. Le tour de la question tous les matins, 9h-11h, avec vous aujourd'hui, François Claus. Bonjour François.
Bonjour Mathieu.
Écoutez,
on va parler de Coupe du Monde pour René,
évidemment.
Pour Jean-Jacques. Allez, je leur donne une petite idée. On arrête de parler de garçons manqués, on va parler de filles réussies peut-être.
Ah,
ça
bien.
Va peut-être être ça le tournant. Le foot féminin, bien sûr, avec une des pionnières, Mélissa Plaza, qui a traversé toutes les époques. Et c'est un peu la consécration pour elle à partir de ce soir. Et Mathieu, à partir de 10h, si je vous dis Tour Eiffel, si je vous dis Bouche de Métro, si je vous dis Colonne Maurice, il n'en manque pas un. Hein. Le kiosque. L'avenir des kiosques de Paris auxquels on est tant attachés, qui sont menacés avec évidemment moins de lecteurs, moins de presse. Mais il y a des pistes pour l'avenir. Vous allez voir, c'est passionnant.
Eh bien, ce sera le tour de la question à partir de 9h sur Europe 1.
François Claus qui attend vos appels dès maintenant au 39 21 à suivre la météo et l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1.